Attendez, je vais faire.
D'accord. Ça a l'air de marcher. Tout le monde m'entend jusqu'en haut. Très bien. Ça ne grésille même pas. C'est formidable. Non, mais j'attendais que vous ayez terminé. C'est bon. Bien, d'abord, bonsoir à tous. Bonne année chinoise, d'abord, puisqu'elle commence demain, l'année du cochon. Donc, c'est un bon moment pour venir parler de la Chine. Et je voudrais juste poser une question, comme d'habitude, c'est qui ici n'a jamais assisté à une de mes conférences? C'est juste une question de sondage personnel. D'accord. Non, c'est juste personnellement. Très bien. Donc, effectivement, ce soir, M. Fournier, avec sa pertinence habituelle, a choisi depuis l'année dernière un sujet d'actualité, puisqu'en ce moment, quand même, tous les jours, on ne parle plus que de Xi Jinping et de la Chine. On en parle de manière différente, comme vous le voyez sur cet écran. Là, vous voyez surtout la version américano-franco-allemande qui parle de la guerre, de la mort par la Chine, du choc chinois, etc., de la Chine conquérante. Donc ça, c'est le quotidien, je dirais, de l'édition européenne, américaine et des médias aussi. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer un peu ce que je comprends, moi, de la Chine, et je dois dire que plus on va en Chine, moins on comprend, mais ça fait très longtemps, c'est comme ça même quand on parle chinois, parce que la Chine change en permanence, la Chine évolue en permanence, je ne dirais même pas tous les ans, mais tous les mois, les choses changent, et donc c'est assez compliqué de faire un tableau d'ensemble. Donc là, ce que j'ai essayé de faire, si j'arrive à me débrouiller avec cette souris, c'est pas comme ça, c'est comme ça. C'est essayer de vous présenter de manière résumée, sinon M. Fournier va hurler après une heure et demie, donner un tableau de ce qu'est, à mon sens, la Chine aujourd'hui, mais surtout pourquoi elle est la Chine de 2019, la Chine de Xi Jinping, d'où est-ce qu'elle vient, cette Chine. En introduction, je voudrais rappeler quand même quelques éléments qui me paraissent importants pour la compréhension générale. La première chose, c'est que l'année dernière, donc la Chine a célébré son 40e anniversaire des réformes, que l'on appelle des réformes d'ouverture en Chine, donc qui remontent à 1978 et à l'avènement de Deng Xiaoping en Chine, et qui ont été des... Pour schématiser aujourd'hui, et je précise que même les institutions internationales, le FMI, la Banque mondiale reconnaissent ça aujourd'hui, ce que la Chine a fait en 40 ans, personne dans l'histoire ne l'a fait en termes de rapidité de développement et aussi, et j'en parlerai tout à l'heure, de réduction de la pauvreté. Donc ça, c'est un fait qu'il faut prendre en compte, indépendamment des questions politiques qui peuvent agiter la réflexion. Le fait est que depuis 40 ans, la Chine est passée de la révolution culturelle, puisqu'en 1978, la Chine sortait de presque 10 ans de révolution culturelle, elle s'est achevée en 1976, donc de bouleversement complet sur le plan politique, économique, social, etc. Vous connaissez, vous avez certainement vu des images de la révolution culturelle, ou lu dessus. Et donc la Chine émergeait dans une situation politique et économique complètement confuse, avec des luttes de pouvoir, des rivalités, des haines personnelles vu la révolution culturelle, etc. Et puis un niveau de développement économique qui avait été fortement entaché par cette période, par ces 10 années. Donc en 78, Deng Xiaoping arrive au pouvoir, et c'est un dirigeant qui est âgé déjà, qui a de l'expérience en Chine, qui avait déjà essayé au début des années 60 de lancer quelques réformes qui avaient échoué, qui était d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la révolution culturelle avait été lancée. Et ce qui, à titre personnel, me semble fascinant chez le personnage, c'est qu'à l'époque, il a plus de 70 ans. On a l'habitude d'un certain nombre de dirigeants aussi occidentaux qui, à partir de 70, 75 ans, commencent à penser qu'ils savent tout et qu'il n'est pas question de faire des réformes. Et lui avait une vision sur les 30 ou 40 années qui venaient. À titre d'exemple, quand il est arrivé, il a dit « Jusqu'à présent, les Chinois s'enfuient à la nage vers Hong Kong, donc vers la liberté, entre guillemets. » Et il a dit « Dans 30 ans, les Hongkongais s'enfuiront à la nage vers la Chine. » Ce qui n'est pas tout à fait le cas, mais en tout cas, il n'y a plus de Chinois qui s'enfuient à la nage vers Hong Kong, ça c'est sûr. Donc il avait cette vision qu'il a développée pendant une première phase d'une dizaine d'années, jusqu'au 4 juin 1989, la date de la répression de Tiananmen, qui a été un coup d'arrêt pendant 3 ans aux réformes. Cette période de 10 ans, il faut avoir en tête que ça a été une période d'une liberté d'expression que la Chine n'avait jamais connue avant, même dans les journaux du parti, etc. Il y avait des débats, des contestations. Il y a une grande liberté religieuse qui était une des raisons des problèmes qui se posent aujourd'hui avec l'islam, par exemple en Chine, c'est cette liberté des années 80. Et puis en 89, il y a eu un coup d'arrêt. Deng Xiaoping et surtout les conservateurs lui ont imposé de mettre un terme à ce qu'il considérait comme une sorte de folie politique, en laissant les gens s'exprimer. Et donc il y a eu la répression. Pendant 3 ans, les réformes ont été arrêtées. Elles ont repris en 92. Ensuite, à partir début des années 90, 92-2012, là, la Chine a connu une période un peu de reprise en main, en tout cas ce plan politique, une première reprise en main, et puis une réorganisation des réformes économiques. Donc les réformes ont été relancées, elles ont été relancées par Deng Xiaoping en 92, et ensuite nous avons eu 2 présidents, Jiang Zemin et Hu Jintao, qui étaient des présidents, je dirais, gestionnaires, c'est-à-dire qu'ils n'ont fait que gérer ce que Deng Xiaoping avait mis en place sans grande nouveauté. Jiang Zemin était très occidental, entre guillemets, il aimait beaucoup les États-Unis, il avait très bonnes relations avec les Américains, etc. Hu Jintao est arrivé, c'était un bureaucrate, il est raide comme un bâton, il n'est pas très souriant, c'était un pur gestionnaire. Il y en a eu d'autres ailleurs, dans d'autres pays, mais lui était vraiment un véritable gestionnaire des réformes. Et puis est arrivé 2012, et c'est ça qui me paraît important, 2012, avec l'avènement au pouvoir de Xi Jinping, donc d'abord comme secrétaire général du parti, puis quelques mois plus tard comme président de la République. Et là, nous sommes passés dans la troisième phase de développement de la Chine. Après 40 ans, donc après en 2012, après une trentaine d'années, une phase qui est au fond la phase de tous les dangers, c'est-à-dire que la Chine est devenue une grande puissance économique, c'était la deuxième puissance économique en 2012, et entre 2012 et aujourd'hui, grosso modo, elle est devenue la deuxième grande puissance économique. C'est une grande puissance de plus en plus plan stratégique. Il ne faut pas oublier que la Chine populaire est membre du Conseil de sécurité, donc elle a une voix au chapitre. Pendant de très nombreuses années, c'est-à-dire pendant des décennies, après 72, le moment où elle est entrée, où elle a pris le siège de la Chine aux Nations Unies, la Chine n'a fait que gérer ses affaires proches, c'est-à-dire elle ne donnait jamais son avis, elle ne s'exprimait jamais sur les résolutions du Conseil de sécurité qui ne la concernaient pas directement. Le grand changement, et en particulier depuis 2012, c'est que la Chine s'exprime aujourd'hui sur toutes sortes de dossiers qui autrefois étaient lointains pour elle et qui, en fait, aujourd'hui, en tant que grande puissance, la concernent directement, particulier évidemment dans ses relations avec les Américains. Donc cette phase est la plus difficile parce que, j'y reviendrai tout à l'heure, parce que c'est en théorie la phase qui d'ici 2049, 2021 d'abord puis 2049, je vais y revenir, doit amener la Chine à être un pays développé, un pays socialiste, moderne, développé, comme dit Xi Jinping. Et donc évidemment c'est la phase dans laquelle elle est en confrontation directe avec les pays, et en particulier évidemment les États-Unis, à qui elle risque de faire de l'ombre d'une manière ou d'une autre, ce plan économique, technologique, politique, stratégique, etc., et militaire aussi. Donc Xi Jinping est arrivé dans ce cadre de 2012, une Chine qui a été développée sur le plan économique, qui avait fait d'énormes progrès, mais aussi qui avait un certain nombre de lacunes ou de limites auxquelles il était confronté. Et puis évidemment, avec en 2012, donc avec cette période, à l'issue des réformes, sont arrivées toutes sortes de menaces internes, externes, qu'il lui a fallu gérer. Donc je vais revenir sur cette période 2012-2013 pour comprendre de quoi Xi Jinping a hérité, parce qu'aujourd'hui on parle de lui au présent, en 2018-2019, mais il faut comprendre d'où il vient et ce dont il a hérité quand il est arrivé au pouvoir. La première chose, et je sais que tout le monde le sait, mais je sais qu'on oublie trop souvent que c'est une réalité pour ceux qui vont en Chine, qui est palpable, c'est la démographie chinoise. La démographie chinoise aujourd'hui, c'est 1,415 milliard d'habitants en 2018. Donc la Chine ne se gère pas comme on gère la France ou pour nous le Luxembourg. En termes de population, la problématique n'est pas la même. On voit effectivement la problématique française avec les gilets jaunes. Effectivement, si on peut avoir 50 000 personnes dans les rues, en Chine, on en aurait 3 millions ou 5 millions tout de suite. Donc la gestion ne se fait pas du tout de la même manière. La deuxième chose, au-delà de cette masse elle-même, c'est le vieillissement de la population, qui évidemment pour toutes les économies est un problème. La Chine vieillit rapidement. Tous les analystes disent la Chine sera vieille avant d'être riche, ce qui sera probablement le cas. Mais vous voyez, quand vous avez 100 millions d'habitants de plus de 80 ans, ça demande une gestion sociale et économique extrêmement complexe et extrêmement lourde. Et ça, ce sont des échéances avec lesquelles le régime chinois, le gouvernement chinois doit faire, et il doit gérer et il doit prévoir cette évolution. Vous voyez, j'ai mis quelques chiffres sur l'évolution du le vieillissement, et puis ce taux d'urbanisation, donc là aussi, que vous voyez pour ceux qui vont en Chine, on est à presque 40 millions d'habitants pour l'agglomération de Chongqing, par exemple, qui est la quatrième ou cinquième aujourd'hui ville au monde. 40 millions d'habitants, probablement 30 millions à Pékin, on n'est pas très très sûr des chiffres, probablement 30 millions à Shanghai. Là aussi, en termes de gestion urbaine, ça pose des problèmes, et ce taux d'urbanisation depuis 10 ans, et donc depuis la dernière conférence que j'ai faite, qui était donc il y a 7 ans, 2012, a encore pris plus d'1% d'augmentation. Donc ça, c'est un problème réel, quotidien, auquel les dirigeants chinois sont confrontés, pour lesquels il n'y a pas toujours des solutions toutes faites. Le deuxième aspect de cette réalité démographique, et là on l'aperçoit aussi en Europe, ce sont les conséquences géopolitiques. D'abord, il y a l'étranger proche, c'est-à-dire la Sibérie. La Sibérie où les Chinois s'installent massivement depuis la fin de l'Union soviétique, puisque à la fin de l'Union soviétique, une grande partie des Russes qui vivaient en Sibérie se sont rapatriés, sont venus s'installer dans l'Oural, dans le cœur de la Russie historique. Et ils ont délaissé derrière les terres, les industries, etc. Et comme les Chinois sont comme la nature, ils n'aiment pas le vide, ils ont traversé la frontière, ils sont allés cultiver les terres, faire fonctionner l'industrie. Donc les Russes sont aujourd'hui, la Russie est très prudente sur les chiffres parce qu'il y a une dimension évidemment politique par rapport à l'opinion publique. Aujourd'hui, ils disent entre 300 et 500 000 Chinois sur 6 millions d'habitants en Sibérie. Beaucoup d'analystes russes disent qu'on est plus probablement 1 million ou 2 millions d'habitants. Et naturellement, ça a un impact sur la recomposition de la démographique de cette région, y compris avec le fait que c'était une région autrefois, à l'époque de l'Empire chinois, qui était contesté en termes de frontières, etc. Donc les Chinois sont montés vers la Sibérie, les Chinois sont descendus vers l'Asie du Sud-Est, mais ça c'était déjà une vieille histoire, c'était la population chinoise, d'origine chinoise en Asie du Sud-Est est très importante. Comme vous le savez, elle contrôle à peu près les Asiatiques du Sud-Est, d'origine chinoise, contrôle à peu près la totalité de l'économie de la plupart des pays de l'ASEAN, je dirais à part le Myanmar probablement et Brunei, tous les autres pays, leur économie est contrôlée. La Thaïlande, même le Vietnam aujourd'hui, Singapour est contrôlé par des Chinois. Donc, il y a eu ce mouvement historique, et puis, par-dessus, avec les réformes, évidemment, il y a beaucoup de Chinois qui se sont expatriés vers l'ASEAN aussi, puisqu'il y a une proximité aussi culturelle, et qui ont renforcé cette présence chinoise économique dans cette région. Ensuite, il y a un mouvement assez massif vers les pays en voie de développement, essentiellement et surtout l'Afrique. En Afrique, je vois régulièrement dans la presse, ils sont 1 million, 2 millions, 3 millions, 500 000, personne n'a aucune idée. Même les ambassades ne le savent pas. Beaucoup de Chinois qui sont en Afrique ne s'inscrivent pas, ne se font pas enregistrer dans les consulats chinois. Donc à peu près aucune ambassade chinoise en Afrique ne sait combien il y a de Chinois dans le pays. Donc les experts européens sont sans doute plus forts que les ambassades, mais en tout cas c'est impossible à déterminer. Certainement ils sont plus d'un million, et ça je dirais c'est purement visuel. Quand on voyage en Afrique, soit en Afrique du Nord ou en Afrique subsaharienne, on peut imaginer effectivement qu'ils sont plus d'un million dans différents secteurs, y compris dans l'agriculture, etc., sans compter les travailleurs qui sont théoriquement qui ont une présence temporaire. Par exemple, en Algérie, ils étaient jusqu'à à présent 70 000 en Algérie à cause des grands chantiers, de la transsaharienne, etc. Donc ça, ce sont des chiffres qui varient en fonction des grands chantiers. Mais cette immigration vers l'Afrique existe. Et les Chinois sont très aventureux, je dirais. Donc quand ils pensent que quelque part, il y a la possibilité de gagner de l'argent, en général, ils y vont. Donc par exemple, longtemps au Soudan, au Sud-Soudan, il n'y a eu qu'un seul hôtel à Djouba qui s'appelait l'hôtel de Pékin, à l'époque où il n'y avait absolument rien d'autre, c'était le seul hôtel de tout le Soudan du Sud, parce qu'un Chinois était venu et qu'il avait trouvé que ce n'était pas normal qu'il n'y ait pas d'hôtel. Et ça, on le retrouve, moi je l'ai vu au sud du Maroc, on le retrouve dans beaucoup de pays africains, donc ils viennent aussi parce qu'ils viennent créer, je dirais, de la richesse d'une certaine manière, et parce qu'ils pensent qu'effectivement il y a des vides à combler. Donc ça, on le voit en Afrique, on le voit peu au Moyen-Orient et on le voit de plus en plus en Amérique latine. Mais pour les Chinois, l'Amérique latine, c'est assez loin. Mais il y a tout de même une présence croissante au Brésil en particulier et en Argentine. Et puis vers les pays développés, donc ça nous y sommes, qu'il s'agisse des étudiants, des hommes d'affaires, des touristes, etc. Vous voyez aujourd'hui, je ne sais plus, en France, on est à, combien ils nous ont dit, 40 000, 42 000, je crois, étudiants chinois aujourd'hui. C'est la première nationalité devant les Marocains, autrefois ça a toujours été les Marocains. Et donc il y a une présence forte, simplement parce qu'on vient, effectivement, on vient profiter de la qualité de l'éducation dans un certain nombre de pays. Aux États-Unis, ils sont 400 000, je crois, étudiants chinois aujourd'hui. Ils étaient, 400 000, je vais y revenir avant qu'on leur interdise d'y aller. Et puis, il y a effectivement les migrants, ceux que vous voyez, les restaurateurs, etc. Et ça représente une présence tout de même en Europe qui, là aussi, est difficile à chiffrer parce que les ambassades ne savent pas exactement. Les ambassades, par exemple, l'ambassade à Paris dit on a recensé 40 000, mais on n'en retrouve que 20 000. Donc, on ne sait pas où sont les autres. Parce qu'il y en a qui viennent comme étudiants et puis qui, finalement, vont travailler à droite à gauche. Bon, ça, c'est un phénomène probablement ordinaire. Je pense que c'était le même cas avec beaucoup d'étudiants venant d'Afrique du Nord avant, etc. Je crois que c'est un peu général. Les touristes, vous les voyez, c'est massif, le tourisme chinois. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas les Chinois, il y a des compagnies aériennes qui seraient en faillite. Nous prenons souvent les lignes de Pékin ou de Shanghai vers l'Europe. 80% des avions sont remplis de touristes chinois ou d'étudiants, mais surtout de touristes chinois. Donc les touristes chinois dépensent aujourd'hui plus en France, par exemple, dans les statistiques, que les touristes japonais, qui autrefois étaient ceux qui dépensaient le plus. Donc ça représente tout de même une économie qui tourne, qui est importante pour les pays européens. Donc, quelquefois, on voudrait bien qu'ils restent chez eux, apparemment, mais s'ils restaient chez eux, ça nous poserait quelques difficultés sur le plan économique, parce qu'il n'y a pas de remplacement aujourd'hui, il faut le dire tout de même, et on le voit dans le secteur industriel et dans les grands chantiers. L'argent, aujourd'hui, il est tout de même encore en Chine. Je ne sais pas combien de temps ça durera, mais il est en Chine. Et puis troisième aspect de cette problématique démographique auquel encore une fois les dirigeants chinois sont confrontés, Xi Jinping, ce sont ses conséquences économiques et sociales. D'abord ces travailleurs migrants, donc 280 millions en 2018 d'après les statistiques chinoises. Donc ces travailleurs migrants, ce sont ceux qui ont contribué depuis le début des réformes à bâtir, je dirais, la Chine, c'est-à-dire à construire les villes, construire les industries, etc., mais qui sont des travailleurs venus des campagnes et qui n'ont pas de statut légal en Chine, ce sont des illégaux. Vous savez qu'en Chine, il faut une sorte de livret de famille, ça s'appelle hukou, chacun là, et c'est ce qui vous permet de résider à un endroit ou à un autre. Donc on a essayé d'empêcher ces migrations à l'époque en ne leur donnant pas l'autorisation de s'installer en ville, mais en même temps, les villes avaient besoin, les centres urbains avaient besoin de ces travailleurs, et donc ils se sont installés dans la périphérie des villes. Et aujourd'hui, c'est une population, vous voyez, presque 300 millions de travailleurs migrants. C'est absolument énorme, mais ça aussi, ça demande une gestion au quotidien. Et je dirais, il y a là aussi un avantage en Chine, c'est qu'il y a une forte solidarité. Par exemple, aujourd'hui, à l'Assemblée populaire chinoise, il y a deux travailleurs migrants qui sont des députés, qui sont élus par les travailleurs migrants et qui représentent les intérêts des travailleurs migrants. Donc c'est important parce qu'ils ont tout de même une voix, bien qu'ils soient illégaux. Et je pense que ce qu'il faut dire aussi par rapport à beaucoup de pays en voie de développement, et notamment en Afrique, mais aussi en Inde, c'est qu'il y a une capacité d'organisation qui est assez faible. phénoménal chez les Chinois. Et donc, on voit, par exemple, dans la périphérie des villes, on voit des sortes de villages de migrants où tout est organisé de manière illégale. C'est-à-dire, ils ont une école, un médecin, ils ont des transports en commun, et tout ça est absolument illégal, et c'est entièrement financé par eux. Ils payent l'instituteur, ils payent les soins, etc. Donc, il y a un phénomène collectif qui permet, en fait, aux travailleurs migrants de survivre, je dirais, dans un environnement juridique qui est un peu compliqué pour eux. Bon, après, j'ai mis quelques chiffres simplement pour mémoire, mais vous voyez qu'effectivement, là, en termes de création d'emplois, ça demande chaque année quelques efforts. Là, on est tombé à 8 millions, mais on était à 12 millions il y a 3 ans, de besoin de création d'emplois pour pouvoir absorber ces jeunes diplômés en particulier. Et en même temps, ce qu'il faut, ce que je disais au début, ce qu'il faut avoir absolument en tête, c'est que la Chine a sorti plus de 400 millions de personnes de la pauvreté absolue, c'est-à-dire selon les standards des Nations Unies, depuis 1978. Donc aujourd'hui, officiellement, ils sont 30 millions. Je dirais, à l'étranger, on dit c'est 80 millions, peu importe, mais en tout cas, ça reste résiduel sur 1,480 milliard d'habitants par rapport à l'ensemble de la planète, puisque les données du PNUD en particulier, donc des Nations Unies, disent que le taux de réduction de la pauvreté en Chine est à peu près le double de ce qui a été fait dans n'importe quel autre pays concurrent, c'est-à-dire notamment en Asie du Sud-Est, que ce soit aux Philippines, en Indonésie, etc. Donc, la recette chinoise en termes de développement, il est évident qu'elle est efficace. Dans quelles conditions, c'est un autre problème, mais en matière de développement économique et social, elle est efficace. Alors évidemment, vous voyez l'éradication, ça c'est l'objectif Xi Jinping, c'est pour 2020. 2020, c'est l'année prochaine. Il faudrait en sortir donc plus d'un million par mois, à peu près. Ce qui fait un gros travail. Les autorités s'y attellent, mais tout de même, c'est peut-être un peu ambitieux pour le moment. Alors maintenant, au-delà de cette question démographique et de ses conséquences, à quoi la Chine était confrontée, Xi Jinping, quand il est arrivé? D'abord, un phénomène déterminant, c'est la corruption. Évidemment, les 40 années de développement, avec pendant quasiment en continu plus de 10% de taux de croissance par an, entre 10 et 13% de taux de croissance, ça a généré de la richesse, mais naturellement, ça a généré aussi de la corruption, vu le fonctionnement. Et donc, cette corruption, elle était devenue tellement répandue, et elle avait tellement irrigué à la fois le parti, l'État, les entreprises, que juste avant son arrivée, le premier ministre précédent, Wen Jiabao, dans une déclaration d'ailleurs à la presse américaine, a dit l'existence même du parti est menacée par la corruption, parce que le parti finit par ne plus avoir de légitimité. Il y avait 75 millions à peu près de membres du parti à l'époque, et donc il a dit c'est une question de vie ou de mort pour le parti que de lutter contre la corruption, parce qu'en réalité l'opinion publique est désabusée, les Chinois ne croient plus au système, etc., à cause de cette corruption. Et ça, c'est un phénomène, évidemment, vous savez que sur le plan économique, ça représente des points de PIB importants, cette corruption. Ça a généré, ça c'est aussi assez chinois, ça a généré énormément de fonds qui sont partis dans les paradis fiscaux, aux îles Vierges, etc. Mais ces fonds, et ça fait une grande différence avec l'Afrique que je connais en tout cas, c'est que ces fonds qui sont partis dans les paradis fiscaux sont ensuite revenus s'investir dans des projets en Chine même. Donc lorsque vous regardez la liste des 10 premiers pays aujourd'hui qui investissent en Chine, enfin aujourd'hui depuis 15 ans, un peu plus de 15 ans, les premiers ce sont les îles Vierges, les Bahamas, qui ne sont pas vraiment des pays, mais ce sont les premières sources de réinvestissement dans des projets chinois. Donc ça signifie que la corruption a tout de même généré, elle-même a tout de même généré de l'investissement dans l'amélioration des infrastructures, dans le secteur immobilier, etc. Ça c'est important. J'ai pas besoin de vous le dire que un certain nombre de pays africains que l'on ne citera pas, leurs dirigeants mettent l'argent en Suisse et qui n'est pas vraiment réinvesti dans leur pays. Donc ça c'est une très très grande différence, et je pense que c'est important de l'avoir en tête, entre le système chinois par rapport à la corruption et un certain nombre d'autres pays corrompus. Alors En 2012, évidemment, Xi Jinping héritait aussi de la crise économique de 2008, de l'effondrement de Wall Street, avec le ralentissement de la croissance, évidemment. Là, on est officiellement à 6,5% en 2018. Les économistes chinois pensent qu'en fait, on est 13 ans de ça. Ils pensent qu'on est probablement à 4% et pas 6,5%. Alors évidemment, vous voyez, pendant des 3-4 décennies, on a été à 10-13%. Tomber à 6,5%, c'est une chute importante. Mais ce qui est intéressant, c'est que, à mon avis, c'est qu'à l'époque, quand il y a eu la crise en 2008, les analystes étrangers, on ne citera personne, européens, français et américains, ont dit en dessous de 10%, le régime chinois est mort. Il va tomber parce que le Parti communiste ne peut pas surmonter une croissance à 10%, puisque sa légitimité vient de là. Aujourd'hui, on est à 6,5, peut-être à 4. Il est toujours là, il est toujours aux manettes et la Chine continue de fonctionner. Donc je crois qu'il y a une chose dont il faut absolument se préserver, c'est de faire des pronostics sur la Chine. Parce que je crois que si depuis 40 ans, il y a un domaine dans lequel tout le monde s'est toujours trompé, ce sont les pronostics, qu'ils soient politiques ou économiques. Tout le monde s'est toujours trompé sur ce que la Chine serait dans un an, dans deux ans, dans cinq ans ou dans dix ans. À part Deng Xiaoping. Ensuite, baisse des exportations, évidemment, puisque la crise économique a généré une baisse des exportations. Donc là, je ne parle pas encore de Trump et de ses taxes. Je parle seulement des économies européennes, africaines, etc. Il y a eu une baisse des exportations assez nette, donc qui s'est poursuivie en 2018. Un phénomène que j'ai découvert hier sur des statistiques chinoises et que je n'ai pas encore analysé. Les statistiques portent sur les entreprises d'État, les entreprises privées et les entreprises dites d'investissement étranger, c'est-à-dire les entreprises étrangères installées en Chine. Et depuis deux ans, depuis 2017, donc depuis le début des sanctions, enfin des taxes, disons, américaines, il y a une chute libre des exportations des entreprises d'État et il y a une croissance exponentielle des entreprises privées. Pour une raison que je n'ai pas encore compris, je pense qu'il va falloir creuser, mais c'est un phénomène intéressant parce qu'en réalité, c'est comme des vases communicants, c'est-à-dire que les États-Unis taxent, sanctionnent, les entreprises d'État souffrent, mais les entreprises privées en bénéficient. Donc, encore une fois, je vous le livre comme ça, je ne sais pas pourquoi à ce stade, je n'ai pas encore d'idée. Et par contre, lorsqu'on prend les statistiques, malgré en 2018, malgré ces taxes américaines, on voit une augmentation des exportations d'acier, alors que l'acier est taxé par les États-Unis, et une exportation d'aluminium. Donc il y a, et j'y reviendrai tout à l'heure, il y a là aussi des vases communicants qui sont en train de se faire, c'est-à-dire les économies qui, elles, sont finalement aussi victimes, puisque l'excellent Donald Trump a eu l'avantage d'attaquer tout le monde en même temps, les Européens, les Canadiens, les Japonais, les Chinois, les Coréens. L'avantage, c'est que ça indispose tout le monde et que donc un certain nombre d'économies sont en train de se retourner vers la Chine alors qu'elles étaient plutôt orientées vers les États-Unis jusqu'à présent. Naturellement, les sanctions, notamment financières, l'usage du dollar, etc., posent des problèmes, mais à moyen terme, en tout cas, c'est ma conviction, à moyen terme, ce sera la Chine qui sera gagnante et pas les États-Unis avec ce type de politique. Parce qu'effectivement, ils encouragent tout simplement les autres économies, enfin Trump, les autres économies à se tourner vers la Chine. Et puis donc dans la foulée de 2008, il y a eu ces dépôts de bilan de milliers d'entreprises, probablement de dizaines de milliers d'entreprises, toutes les petites entreprises qui vivaient de l'exportation, ce qui a donc donné lieu après à cette réorientation qui a été voulue par Pékin en direction de la consommation intérieure. Donc il y a eu ce stimulus, cet investissement massif, 700 milliards de dollars qui ont été investis dans l'économie chinoise par le pouvoir pour arriver à remettre sur les rails, disons, l'économie chinoise et à sauver les entreprises. Donc ça, c'était cette situation en 2008. Et puis, naturellement, dans la foulée de cette crise, des fermetures d'usines, etc., notamment dans les zones côtières, il y a eu une agitation sociale de plus en plus forte, donc avec un certain nombre de mouvements sociaux qui sont recensés. Ils existent, contrairement à ce qu'on croit. Il y a des grèves en Chine, il y a des manifestations dans la rue, il y a des occupations d'usines, j'en ai vu. Et donc, le nombre de mouvements a augmenté depuis 2008 dans la foulée de ces difficultés économiques. On était à 50 000, je crois qu'on est passé à 80 000 mouvements recensés, en tout cas pour les années suivantes. Évidemment, c'est aussi une menace pour la stabilité du pays. Et puis, d'accord, Bon, c'est pas grave, vous arrivez à lire. Et puis, dernier défi intérieur majeur, la question terroriste. Alors, malgré tout ce que l'on peut lire, entendre à l'étranger, le terrorisme en Chine, ça existe. Ça n'est pas une vue de l'esprit. Il y a des activités terroristes, c'est ancien, ça date de 1989-90, les premiers attentats terroristes. Et la menace terroriste, donc, après 2008, est devenue beaucoup plus pressante, je dirais, surtout à partir de 2011, évidemment, à cause des révoltes arabes. Donc on a vu, au moment des révoltes arabes, on a vu en particulier la Syrie et l'Irak, avec le développement d'Al-Qaïda, de Daesh, on a vu des militants, disons, islamistes chinois, donc Ouïghours essentiellement, donc de la province du Xinjiang à l'ouest, qui ont rejoint la Syrie massivement. Certains étaient déjà en Afghanistan, puisqu'ils étaient assez nombreux en Afghanistan avec les talibans. Ils ont rejoint la Syrie, et puis ils sont créés des camps d'entraînement. Ils sont, on estime, entre 15 000 et 18 000 au total, dans le nord de la Syrie aujourd'hui. Ils ont créé des camps d'entraînement. Vous voyez à droite, ce sont les écoles de formation à la guerre djihadiste pour les enfants ouïghours en Syrie. À gauche, c'est un enfant à qui on a fait exécuter deux prisonniers russes. Ça, ce sont des Ouïghours. Donc, cette menace, elle existe réellement. Et en plus, et ça, on le sait sur le terrain, en Syrie, les Ouïghours sont des combattants particulièrement bien formés. Par exemple, ce sont les seuls combattants, pour l'anecdote, de tous les djihadistes qui savent utiliser des missiles sol-air, parce qu'ils ont été formés en Afghanistan avant. Donc, il y a effectivement eu, depuis 2011, une menace croissante, et qui est encore plus forte aujourd'hui, qui explique un peu, et on pourra y revenir, mais qui explique un peu ce qui se passe en ce moment avec les musulmans en Chine, mais qui est devenue encore plus forte justement avec la débandade, je dirais, de Daesh et d'Al-Qaïda en Irak et en Syrie, qui fait qu'un certain nombre de ces combattants ont commencé à rentrer en Asie centrale, donc sur les frontières de la Chine, et qu'ils ne sont pas bien sûr les bienvenus en Chine. Donc ça, ce sont les défis intérieurs de... D'accord. Pour Xi Jinping, quand il est arrivé, les années qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, les défis extérieurs. D'abord, il faut se souvenir que l'administration Obama, donc avant Trump, avait lancé cette idée de pivot vers l'Asie, c'est-à-dire désengagement du Moyen-Orient pour se tourner vers l'Asie, considéré à la fois comme le prochain grand continent de développement économique mondial, mais aussi à cause de la Chine, évidemment, et puis en partie de la Russie, qui est aussi asiatique, mais surtout de la Chine, qui est le principal, et qui l'est encore plus aujourd'hui, concurrent stratégique. Donc l'administration Obama a dit nous allons maintenant retourner nos efforts vers l'Asie. Le ministre de la Défense à l'époque, le secrétaire d'État à la Défense américain, a fait la tournée de toute la périphérie chinoise, depuis la Corée du Sud jusqu'au Pakistan. Il a fait en 3 mois, il a fait le tour, en promettant des ventes d'armes, en promettant par exemple aux Philippines la réouverture de la base américaine, l'ancienne base américaine de Subic Bay, en demandant aux Vietnamiens de pouvoir accéder à la base navale de Cam Ranh, donc qui servait pendant la guerre du Vietnam aux Américains, etc. Donc il y a eu une véritable politique, on peut dire, d'encerclement, en tout cas c'est perçu comme ça à Pékin, politique d'encerclement de la part de l'administration américaine, évidemment avec cette fragilisation de la périphérie, parce qu'il faut se souvenir, je crois que je vais peut-être, voilà, que la Chine a 23 États dans sa périphérie. Donc c'est pas, vous voyez, les États-Unis, vous avez le Canada au nord, le Mexique au sud et deux océans. C'est assez confortable. La Chine a 23 États. Vous voyez à quoi ressemblent ces États. Vous avez plusieurs puissances nucléaires, la Chine, l'Inde, la Corée du Nord, la Russie. Vous avez deux pays, le Pakistan et l'Inde, qui ne sont pas tout de même des grands amis, mais qui ont tous les deux une puissance nucléaire. Vous avez en Asie centrale des mouvements islamistes, djihadistes, ou en Ouzbékistan, Tadjikistan, etc. Vous avez la question de Taïwan, vous avez les forces américaines, vous voyez où sont positionnées aujourd'hui les forces américaines. On peut comprendre quand on est à Pékin, de manière tout à fait objective, on peut comprendre qu'on se sente un peu tendu, un peu menacé. Donc ça, c'est il y a quelques années, je pense que c'était le cas en 2012, quand j'ai fait la présentation, il y avait aussi des drapeaux en Asie centrale américains. Ils ont disparu parce que les Chinois et les Russes ont réussi à se mettre d'accord pour faire partir les Américains des bases qui étaient au Kyrgyzstan, et en Ouzbékistan. Donc ils ont fait pression sur les gouvernements pour que les bases américaines disparaissent. Donc ça c'est l'environnement sécuritaire de la Chine dont Xi Jinping a hérité en 2012-2013. Et évidemment, et ça n'engage que moi, mais en général, je lis dans les commentaires où j'entends que, en fait, Xi Jinping est quelqu'un d'agressif parce qu'il est très sûr, très arrogant. Bon, vous avez vu l'arrogance chinoise, le livre tout à fait au début. Il est très sûr de lui et que donc, il est une menace. Personnellement, je pense que c'est l'inverse. Je pense qu'il est pas sûr du tout de la puissance chinoise. Il est très conscient des limites de la puissance chinoise aujourd'hui parce qu'évidemment, elle est limitée, notamment sur le plan militaire, et qu'il est plutôt dans une dynamique réactive par rapport aux forces américaines qui sont dans la périphérie, qui sont en mer de Chine méridionale, etc. Parce qu'évidemment, il faut avoir en tête tout de même dans ce budget de la défense chaque année, on a une tonne d'articles sur le budget de la défense chinois qui augmente de 2%, 3%, 4%, etc. et qui menace la planète. Il faut revenir quand même à quelques réalités brutes sur les budgets de défense. La Chine, certes, a un budget de défense important, mais avec 23 États dans sa périphérie et 1,480 milliard d'habitants, je pense qu'on peut le comprendre. Vous voyez que les États-Unis, en termes de budget, et là, dans les deux cas, on parle du budget officiel, c'est-à-dire ça n'est pas le budget réel de la Chine, il est sensiblement plus élevé, mais celui des États-Unis aussi. Et ça, c'est celui de 2017. Vous savez qu'en 2019, Trump a fait passer à 740 milliards de dollars le budget de défense officiel, et qu'en réalité, ce budget de défense ne comprend pas le secteur nucléaire dans les déclarations. Donc tout le nucléaire américain n'est pas dans le budget de défense. Donc on est peut-être à 900 milliards ou à 1000 milliards, je ne sais pas, de dollars. Donc évidemment, là aussi, vous voyez, pour pourcentage du PIB, ce que ça donne, ça ce sont les derniers chiffres. La Chine n'est quand même qu'à 9% de son PIB, pour 3% pour les États-Unis. Donc en termes de découplage de puissance entre la Chine et les États-Unis, quoi que l'on pense de la modernisation de l'armée chinoise, la Chine est encore très très loin des États-Unis, à la fois sur le plan du budget de défense, mais aussi sur le plan technologique. Les Chinois en sont tout à fait conscients. Sur le plan technologique, ils sont encore très très loin des États-Unis, qui passent leur temps à investir, eux, dans la recherche et le développement militaire. Donc vous voyez simplement, à titre de comparaison, la Russie ou le Japon ou l'Inde, où là, on est en fait à des budgets plus faibles, mais on est avec des pourcentages tout de même assez importants. Donc la Chine, sur le plan militaire, nous sommes, à mon avis, encore très très loin de la menace mondiale militaire telle qu'on nous la présente un peu partout. Alors ça, c'est pour comprendre rapidement la question de Taïwan, parce que ça aussi, c'est un héritage lourd. Et là, le président Xi Jinping a fait une déclaration il y a il y a 2 semaines, sur Taïwan, qui a alerté toute la presse occidentale, puisqu'il a dit que l'indépendance de Taïwan était une ligne rouge et que, comme disent les Américains, toutes les options sont sur la table, comme dit M. Bolton, M. Bush. Donc, la presse a dit, ça y est, les États-Unis veulent conquérir Taïwan, c'est nouveau. Ça fait en réalité 40 ans à peu près que les dirigeants chinois disent la même chose et disent, on peut discuter, mais il y a une ligne rouge, c'est l'indépendance de Taïwan. Ça n'est pas nouveau, Xi Jinping l'a répété, mais ça fait des années, des décennies qu'ils le disent. Ça, c'est pour comprendre pourquoi la question de Taïwan est importante sur le plan stratégique, au-delà de la question de la légitimité historique. Parce qu'évidemment, alors, pour ceux qui ne suivent pas trop la question taïwanaise, Taïwan s'appelle République de Chine, province de Taïwan. Donc, ce sont les héritiers de 1911, de la révolution nationaliste de 1911, qui, en 1949, se sont enfuis les nationalistes à Taïwan. Donc, la question de Taïwan, c'est certes une question de légitimité historique, en disant Taïwan, c'est le territoire chinois, il n'est pas question de l'abandonner, donc il n'est pas question d'accepter que Taïwan prenne son indépendance. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus important, c'est que dans la périphérie à l'est, donc dans le Pacifique, pour la Chine, il y a les forces américaines, et que Taïwan est un peu une clé d'entrée dans le Pacifique en termes d'eau territoriale. C'est-à-dire aujourd'hui, pour la Chine populaire, Taïwan n'a pas d'eau territoriale, puisque ça appartient à la Chine populaire. Mais vous voyez les îles, vous descendez jusqu'à Okinawa, donc qui est au sud. Tout cela, ce sont les eaux territoriales japonaises. Et au nord, au sud, pardon, vous avez les eaux territoriales philippines. Ça signifie que la marine chinoise, quand elle veut aller dans le Pacifique, ou les sous-marins chinois, quand ils veulent aller dans le Pacifique, ils sont obligés de passer par le sud du Japon, donc en dehors des eaux territoriales, et dans cette zone qui est taïwanaise. Si Taïwan, demain, devenait indépendant, la Chine n'a plus aucun accès au Pacifique par cette voie pour entrer directement dans le Pacifique avec des sous-marins ou avec des navires militaires ou non. Donc il y a cette question stratégique qui fait aussi que si Taïwan demain était indépendant, Taïwan aurait la possibilité d'inviter les troupes américaines à stationner sur l'île, ce qui aujourd'hui est impensable, mais qui serait une véritable menace là aussi pour la Chine populaire. Pourquoi ? Parce que vous voyez ici ce qu'on appelle les deux ceintures insulaires dans le Pacifique, les deux lignes rouges. La première ligne rouge, vous voyez, c'est cette ligne continue qui fait effectivement qui bloque aujourd'hui l'accès au Pacifique. Et la deuxième, c'est celle où vous avez les bases américaines. Et en fait, lorsque vous êtes ici, donc tout à fait à l'est, la souris. Ah oui, c'est pratique. Lorsque vous êtes à l'est, vous êtes à peu près 4 heures de vol des centres économiques chinois. C'est-à-dire que les bombardiers américains et les avions de chasse américains sont à 4 heures de vol de Shanghai, Pékin, ou Pékin un tout petit peu plus, ou de Canton, et de toute la côte qui, en fait, toute l'industrie chinoise est sur la côte. Donc, les Chinois, ces deux ceintures insulaires, c'est le plan stratégique depuis un certain nombre d'années. La première, c'est de repousser la marine américaine, donc qui navigue dans le détroit de Taïwan, repousser jusqu'à cette première barrière, et le deuxième objectif, c'est de repousser les Américains jusqu'à la deuxième barrière d'île pour faire en sorte qu'effectivement il y ait une distance de sécurité pour les Chinois. Donc la réalité, ça c'est une réalité stratégique, c'est pas la question de Taïwan, savoir s'ils sont méchants, ils sont gentils, ils sont communistes, pas communistes, etc. La question ne se pose pas là, la question elle est stratégique, elle est militaire. Donc ça, c'est un dossier qui est brûlant, qui l'a toujours été et qui l'est toujours avec Xi Jinping. Maintenant, la Chine depuis, alors ça c'était le 2012, entre 2012 et 2018, la Chine de Xi Jinping en 2019. Donc il est arrivé au pouvoir en 2012-2013. Comment est-ce qu'il a abordé la chose, Xi Jinping, sa politique ? D'abord, la campagne sur le plan intérieur, la campagne anticorruption. Jamais il n'y a eu une campagne anticorruption aussi féroce, et je dirais ni en Chine, ni à mon avis, dans la plupart des pays de la planète. Ici, on nous présente, et je dis ici en Europe, aux États-Unis, on nous présente ça en général comme une des rivalités politiques, c'est-à-dire on arrête les opposants sous motif de corruption, etc., au sein du parti. La réalité, elle est un peu plus compliquée, c'est qu'effectivement, depuis son arrivée, Xi Jinping a dit « le pays et le parti ne survivra pas si l'on laisse la corruption telle qu'elle est aujourd'hui ». Donc, il y a eu, bon là vous avez quelques têtes, mais ce sont des dizaines de milliers de gens, de cadres du parti ou de cadres des entreprises à différents niveaux qui ont été arrêtés. Certains ont été condamnés à mort. En général, les peines sont commuées à des peines de prison à perpétuité. Il y a eu quand même des membres du comité central et des membres du bureau politique. L'homme fort, Zhou Yongkang, le premier, c'était l'homme fort, c'était le ministre de la Sécurité publique, c'était lui qui contrôlait la sécurité en Chine. Alors, on a dit c'est parce que c'est un opposant, etc. Moi, j'ai du mal à voir les opposants à tous les niveaux parce que je travaille avec des entreprises chinoises et j'ai vu des cadres d'entreprises chinoises partir en prison qui m'avaient pas l'air d'être des opposants au numéro 1 du parti, si vous voulez. Je crois qu'il y a une véritable politique de nettoyage parce que ça paraît indispensable. Et à titre d'exemple, il y a 3 ans maintenant, le patron d'Internet en Chine, donc qui a un rang de ministre, a été nommé. Et la presse ici, je dis toujours ici au sens large, en Europe, aux États-Unis, la presse a dit c'est un proche de Xi Jinping, c'est pour ça qu'il est nommé patron d'Internet. 18 mois plus tard, il est parti en prison pour corruption. Et la presse a dit c'est parce que c'est un opposant de Xi Jinping. Donc en 18 mois, il avait tourné sa veste très vite. C'est tout à fait vérifiable, mais ça c'est vraiment le problème permanent de l'analyse de ces questions de rivalité politique interne au parti, etc. Il y a pardon, il y a une véritable campagne qui touche tout le monde et qui touche à tous les niveaux, du plus bas des entreprises jusqu'au sommet des entreprises. Ce qui ne veut pas dire que, du pouvoir. Ce qui ne veut pas dire que la corruption n'existe plus. Je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. On le voit régulièrement. Mais ce qui a été nouveau par rapport à une campagne qui avait déjà existé sous Hu Jintao, c'est ce qu'il a dit, c'est pour ça que j'ai mis cette illustration, c'est qu'il faut s'attaquer aux mouches comme aux tigres. Donc il faut s'attaquer aux plus grands comme aux plus petits. Et ça, aujourd'hui, ça fonctionne. Il y a une commission d'inspection. Ce qui est nouveau, l'année dernière, vous savez qu'il y a eu une modification de la constitution chinoise. On en a pas mal parlé ici, mais j'y reviendrai. Et dans les modifications, dans les amendements à la constitution chinoise, il y a eu la création d'une commission de discipline qui n'était plus seulement discipline du parti, puisqu'autrefois, jusque-là, en fait, la commission de discipline qui travaillait sur la corruption n'attaquait que les membres du parti, n'étudiait que les cas du parti. La commission nouvelle qui a été créée vise toute l'administration, qu'elle soit parti ou pas, parce que quand même, dans l'administration, il y a des gens qui ne sont pas du parti, dans les entreprises aussi. Donc il a élargi le champ de la lutte anticorruption. Et je peux vous assurer que c'est très efficace, parce que quand on est patron ou d'entreprise en Chine et qu'on est placé sous inspection, comme on dit, on est logé dans un hôtel perdu, on n'a plus de téléphone portable, et ensuite on répond pendant 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines à des interrogatoires constants. Comme m'a dit un ami qui en revenait et qui n'était pas corrompu, ça fait peur, parce qu'effectivement c'est une politique solide. Donc voilà. Et puis il y a tout ce que j'ai mis ici, ce sont un peu des anecdotes, mais c'est la vérité. D'abord, la campagne anticorruption a fait faire faillite à de nombreux hôtels et restaurants, parce qu'avant tout cela se faisait sur le compte des entreprises, le compte des entreprises qui payaient pour les gens du parti, les invités, etc. Là, c'est devenu tout le monde se méfie. Il y a eu, vous avez peut-être vu dans la presse, il y a eu aussi maintenant il y a une chasse à la corruption sur Internet en fonction des photos. Donc tel cadre du parti qui est vu en photo sur une cérémonie avec une montre qu'il ne devrait pas avoir, immédiatement il y a une dénonciation sur Internet et les gens partent en prison sur ça, c'est-à-dire sur la voiture, sur les montres, etc. Donc c'est une vraie campagne. Au-delà de ce que l'on peut en dire, c'est une vraie campagne et elle fonctionne pour le moment plutôt bien. Alors, interdiction des cadeaux offerts aux supérieurs pendant les fêtes, ça aussi, parce que ça fait partie du lobbying, donc c'est le cas là, bien à partir de demain, la nouvelle année chinoise, on a l'habitude de faire des cadeaux de plus en plus importants en fonction du rang du supérieur pour s'attirer les bonnes grâces, c'est strictement interdit aujourd'hui. Alors maintenant, Xi Jinping, en dehors de cette question de la corruption, la deuxième chose, un sourire. Je vais y arriver. Voilà, non, j'étais passé trop vite à l'international. Donc, Xi Jinping, la deuxième chose et qui a marqué les esprits partout, en Chine comme ailleurs, c'est cet objectif de renaissance de la Chine. En chinois, c'est la grande renaissance de la Chine. Évidemment, c'est perçu à l'étranger comme étant assez offensif, parce que l'idée même de renaissance a un côté nationaliste, c'est renaissance de la nation chinoise, ça a un côté nationaliste. Bon, la Chine, il faut se souvenir que depuis 1839 exactement, la Chine, elle a été sous contrôle jusqu'en 49 des puissances étrangères, du Japon, des Américains, etc., qu'ensuite il y a eu la révolution, et qu'elle a eu beaucoup de mal à réémerger dans l'ordre international. Donc la puissance qui était la sienne au début, à l'arrivée des Occidentaux, puisque c'était un empire qui régnait sur quand même une grande partie de l'Asie à l'époque, c'est l'objectif aujourd'hui de Xi Jinping dans son discours. Il a fait son discours là-dessus une semaine après avoir été nommé secrétaire général du parti, donc il l'avait médité avant. Et l'idée, c'est effectivement de, sa formule, c'est en gros faire accéder la Chine à la puissance, à la modernité, à l'harmonie, une société socialiste harmonieuse et développée. Donc avec des objectifs. 2021, la Chine doit accéder à ce que Deng Xiaoping appelait une société de moyenne aisance, c'est-à-dire avec un niveau général, disons, de classe moyenne, pour schématiser. 2021, pourquoi ? Parce que 2021, c'est le 100e anniversaire de la création du Parti communiste chinois, donc 1921. Puis deuxième objectif, 2049, donc le 100e anniversaire de la fondation de la République populaire, où la Chine doit devenir ce que donc il appelle une Chine moderne, prospère, socialiste et harmonieuse. Donc il a fixé des objectifs très ambitieux tout de même, parce que 2021 c'est demain, des objectifs très ambitieux, et du coup il s'est donné, je dirais, les moyens, c'est-à-dire qu'il a fait quelque chose qui évidemment chez nous est totalement iconoclaste, c'est-à-dire qu'il a reconcentré les pouvoirs entre ses mains et entre les mains du centre du parti à Pékin, parce que tout au long des réformes, il y avait eu une très grande décentralisation, qui était une des raisons de la corruption aussi, une grande décentralisation, et au fond, Pékin avait de plus en plus de mal à contrôler ce qui se faisait réellement dans les provinces. Il faut se souvenir que des provinces, par exemple la province du Sichuan, c'est 180 millions d'habitants, donc c'est quoi, trois fois la France à peu près. Et donc les gouverneurs de province et les secrétaires du parti du province étaient devenus un peu des petits empereurs qui décidaient comme ils voulaient de leurs réformes, etc. Donc il a dit, pour pouvoir aboutir à atteindre ces objectifs, il faut concentrer le pouvoir au centre et il faut que les instructions qui sont données au centre soient suivies. Donc, il y a eu effectivement une phase de répression politique, en tout cas de toutes les dissidences quelles puissent être politiques. Et il faut se souvenir tout de même, quand on regarde qu'elles sont relativement minoritaires par rapport à la taille de la Chine, il existe effectivement des opposants, il y a aussi des violations, je dirais, basiques des droits de l'homme, avec les avocats en particulier qui sont poursuivis, etc. Après, effectivement, la question, c'est la stabilité. C'est-à-dire que pour les dirigeants chinois, et ça a toujours été le cas depuis le début des réformes, la clé du succès, c'est la stabilité. Comme disent les Chinois, la déstabilisation de la Chine, c'est 100 millions de réfugiés aujourd'hui en Asie, ou 200 millions de gens qui quitteront la Chine, ou la guerre civile. On a connu la révolution culturelle, on estime à peu près à 25 millions de morts, la révolution culturelle. Donc évidemment, ce sont des chiffres énormes, mais qui correspondent à la Chine. Et donc les dirigeants chinois ont toujours dit, et Xi Jinping l'insiste en particulier, en disant, la moindre déstabilisation, elle peut être excessivement coûteuse en coût humain, sans compter le coût économique. Alors quand on voit effectivement à quel point nous sommes excités pour les quelques dizaines de milliers de gilets jaunes qui sont dans les rues aujourd'hui et à quel point on est un peu dans une dérive quelquefois autoritaire, disons sur ce plan-là, on imagine ce que peuvent être 10 millions de personnes dans les rues en Chine. Et ça a de quoi inquiéter un peu, si vous voulez, les responsables au-delà du système politique. Je ne parle pas du système politique, mais la réalité de la gestion d'un État. Donc ça, c'est une priorité haute, c'est de faire en sorte effectivement qu'il y ait le moins possible, le minimum possible de contestation politique visible, c'est-à-dire sur Internet, etc., sur la presse et Internet. Parce qu'en réalité, et ça aussi c'est une chose qu'on ne souligne pas assez, il existe dans le système chinois un système qui est propre au parti de remontée d'informations, ça a un nom, ça s'appelle littéralement matériau intérieur, c'est-à-dire que les bases, quelles qu'elles soient, ça peut être des universitaires, ça peut être des entreprises, etc., font des sortes de rapports sur des choses qui vont ou des choses qui ne vont pas, et qui remontent dans toute la hiérarchie jusqu'au secrétaire général du parti. C'est trié, filtré, puis ensuite il y a un certain nombre de documents sur son bureau qui disent, voilà, là ça ne va pas, là ça ne va pas. Ça c'est toléré, pourquoi ? Simplement parce que c'est off, ça n'est pas dans la grande presse, ça n'est pas sur Internet, etc., et ça permet, ça fait longtemps que ça dure, ça date de Jiang Zemin, ça permet effectivement de réorienter au fur et à mesure un certain nombre de décisions politiques, stratégiques, économiques, sociales, en fonction des réalités du terrain. Quelquefois, on aimerait que dans d'autres pays, ce soit la même chose. Un événement important de l'année dernière qui a beaucoup fait jaser, ça a été la suppression dans la Constitution du terme du mandat présidentiel. Alors on a dit, ça y est, Xi Jinping est président à vie. Xi Jinping, il fait un calcul qu'il faut comprendre, c'est que avec la campagne anticorruption, vous voyez les têtes qu'il a fait tomber, il a fait tomber 300 officiers supérieurs responsables, des militaires, dont des généraux, et un ancien ministre de la Défense. Xi Jinping, il sait une chose, c'est que s'il quitte le pouvoir aujourd'hui, je dirais, manière primaire, il est mort. C'est-à-dire qu'effectivement, son départ va lui coûter très cher, mais aussi va coûter très cher au processus, disons, de développement de la Chine, tel que lui, il l'a voulu, tel qu'il veut amener en 2021-2049. Donc, Son mandat, normalement, c'était 10 ans, c'est 2 fois 5 ans en général. Et il a effectivement fait ce calcul en disant 2021 puis 2049, si on peut garder encore 2 décennies, peut-être 3 décennies, je n'ai aucune idée, je ne suis pas dans sa tête, mais je parle par rapport au contexte chinois tel que je le perçois. Il s'est dit, si on veut maintenir les réformes et surtout la campagne anticorruption, il faut rester au pouvoir, parce que sinon, dès qu'on aura le dos tourné, il est clair que la campagne va s'arrêter et que les mauvaises pratiques vont revenir. Donc il a fait supprimer ce terme. Il n'est pas écrit dans la Constitution que c'est une présidence à vie. Lui-même n'a jamais dit qu'il resterait au pouvoir éternellement. Je dirais même si il voulait le faire, il ne le dirait pas. Mais en tout cas, il a dit depuis le début, depuis le débat sur ce terme, il a dit, moi, le problème, il est de pouvoir mener les réformes à bien, jusqu'au bout de leur logique, et non pas de conserver le pouvoir pour le pouvoir. Évidemment, ça n'engage que lui en termes de... Mais si l'on se met dans le raisonnement et dans la logique chinoise des dirigeants chinois, je pense personnellement que c'est tout à fait rationnel comme calcul. Alors évidemment, tout le monde a poussé des hurlements, on a dit quoi, c'est une honte, etc. Bon, si vous regardez un peu autour de nous, en France, on a quand même quelques élus qui sont là depuis quelques décennies. Angela Merkel, elle en est à son 4e mandat. Aux États-Unis, ça c'est important. Pourtant, c'est une chose que je voulais dire au début, c'est le décalage chronologique entre l'évolution de la Chine et notre évolution à nous et celle des États-Unis. Les mandats aux États-Unis, la limite des mandats, 2 mandats présidentiels, ça date de 1951 seulement. Donc la Chine, elle est dans un processus évolutif d'où elle vient de très loin. Et en réalité, on lui demande en permanence d'appliquer aujourd'hui des recettes que nous avons appliquées il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 30 ans ou 40 ans, alors qu'elle n'est pas du tout au même stade de développement politique, social et économique. Ça, je pense que c'est un problème de compréhension majeur entre nous et les Chinois, et je ne parle pas des dirigeants chinois, mais je parle d'un grand nombre d'intellectuels chinois ou d'universitaires ou de cadres du parti, c'est qu'ils se demandent pourquoi est-ce que l'on essaye d'imposer aujourd'hui à eux des recettes que nous avons seulement été capables d'imposer il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Je veux dire, l'ORTF, pour ne parler que de la propagande, l'ORTF, c'est pas si vieux que ça, c'est les années 70. Et puis ça va pas s'arranger. Donc, de manière générale, si vous voulez, du côté chinois, ils disent, ok, mais laissez-nous le temps, le temps du développement. C'est un thème qui revient toujours, et là aussi, on peut dire que c'est de la propagande, mais qui revient toujours dans les discours. Catastrophe. Dans les discours chinois, il ne faut pas me mettre un clavier devant. Là. Dans les discours chinois, c'est le temps. Laissez-nous le temps d'évoluer. On va y arriver. Non ? Ah, c'est... Ça marche à l'envers, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, d'accord. Bon, 2 minutes de pause. C'est ça, j'en étais là. Non, j'en étais ici. Voilà. On y est. Bon, ça vous permet de vous reposer aussi, parce que je sais que je parle vite. Voilà, donc la suppression du terme du mandat présidentiel, je crois qu'il faut essayer de le comprendre, ça n'engage que moi là aussi, mais je crois qu'il faut essayer de le comprendre aussi avec l'angle chinois, l'approche chinoise aujourd'hui des problématiques de la Chine et non pas de notre idéologie à nous sur les questions démocratiques. Autre élément qui est très important dans ce que fait Xi Jinping depuis qu'il est arrivé, c'est le retour des valeurs confucéennes. Bon, jusque-là, on était largement dans les valeurs marxistes, léninistes et de la pensée Mao Zedong, comme on dit en Chine. Pardon. Xi Jinping a clairement remis, dès le départ, remis à l'ordre du jour les valeurs confucéennes. En disant, on ne peut pas se couper de notre héritage culturel, historique, philosophique, et donc il faut prendre en compte les valeurs confucéennes. Alors il y a 2 types de valeurs qui sont mises en avant, les valeurs confucéennes et puis ces valeurs asiatiques qui étaient le dada de Mahathir Mohamad quand il était premier ministre malaisien, qui avait mis ça sur la table en disant nous ne pouvons pas évoluer de la même façon que les sociétés occidentales, on n'a pas la même histoire, on n'a pas la même culture, on n'a pas les mêmes approches politiques, etc. Et donc ça, c'était ce qui avait été publié à Singapour à l'époque, ce livre blanc pour l'ASEAN, auquel avait souscrit la Chine à l'époque, donc avec cette notion de famille, de communauté qui au fond est plus importante que l'individu, qui est un grand, évidemment un autre sujet, ce serait le sujet d'une autre conférence sur la relation entre les sociétés qui misent sur l'individu ou qui laissent l'individu, se développer séparément, disons, de la collectivité, puis les sociétés qui misent d'abord sur la collectivité. Et quand on regarde, alors ça c'est un autre sujet, mais quand on regarde les chartes des droits de l'homme, qui sont la charte africaine, la charte latino-américaine, la charte arabe des droits de l'homme, il y en a eu plusieurs, toutes ces chartes des droits de l'homme insistent sur cet aspect de la famille et de la communauté. Alors que lorsque vous regardez les conventions des droits de l'homme de notre côté, c'est totalement out, que ce soit celle de l'Union européenne, etc., c'est complètement négligé. Donc là, nous avons un vrai fossé culturel entre deux types de cultures, deux types de sociétés, et on doit le prendre en compte, d'abord parce que nous, tout de même, l'excès d'individualisme nous pose des problèmes depuis pas mal de temps, et puis deuxièmement, parce que finalement, d'autres sociétés, au-delà des questions de droits de l'homme au sens strict, mais d'autres sociétés ont le droit d'avoir des modèles de développement effectivement différents. Confucius, c'est ce que met en avant Xi Jinping aujourd'hui. C'est quoi? C'est l'harmonie sociale. Donc ça, c'était déjà le mandat précédent de Hu Jintao, la société harmonieuse. C'est un concept confucéen. Le respect des hiérarchies, c'est-à-dire la hiérarchie familiale, la hiérarchie politique, etc., qui pour Confucius, comme pour Xi Jinping et son parti aujourd'hui, est la garantie d'avoir une stabilité sociale et politique. Le service d'autrui, c'est ce que sous Mao on appelait au service du peuple. Ça, c'est le service d'autrui, c'est-à-dire effectivement, et c'est ce que demande Xi Jinping souvent au cadre dans ses discours, c'est qu'il faut qu'ils se souviennent qu'ils sont au service de la population et non pas la population à leur service en tant que cadre du parti. Et puis, cette idée qui est évidemment qui a été popularisée par Xi Jinping dans ses discours au plan international, c'est cette notion de communauté de destin. Alors ça, c'est son terme. Il a sorti ça il y a 2-3 ans maintenant. Communauté de destin de l'humanité, en disant au fond, on a besoin effectivement de penser les choses ensemble, de penser les problématiques aujourd'hui mondiales ensemble et non pas chacun dans son coin, si l'on veut, améliorer le destin de l'humanité. C'est pas très loin de ce que disent beaucoup d'experts aujourd'hui, par exemple sur le climat, où l'on dit le climat, ça n'a aucun sens de le traiter au plan national. Et il y a beaucoup aujourd'hui de thématiques qui ne peuvent plus être traitées effectivement de manière nationale, mais qui en même temps ne sont pas traitées par les Nations Unies parce que personne n'arrive à se mettre d'accord. Donc ce que dit au fond Xi Jinping de son côté, c'est ça, c'est il faut que l'on arrive à créer ce, non pas une sorte de pouvoir supranational, mais en tout cas un collectif décisionnel et de débat sur ces questions qui touchent aujourd'hui l'ensemble de la planète. Alors, ça, c'est ce que dit Xi Jinping. Ma flèche s'est décalée, c'est pas grave. Ça, c'est ce qu'il dit justement régulièrement au cadre du parti pour leur rappeler qu'ils ne sont pas des monarques, ils ne sont pas des petits rois en tant que parti quand ils sont responsables du parti dans telle ou telle structure, mais qu'ils sont au service de la collectivité. L'autocratie doit être évitée de devenir des monarques. Alors, ça paraît toujours un peu, je vois quand on en discute en Europe, ça paraît toujours un peu anecdotique, un peu même voire drôle pour un dirigeant de dire ça, mais en Chine, en réalité, ce sont des mots qui passent, c'est une terminologie qui passe, qui est comprise par la population et qui fait que, quoi que l'on en pense chez nous, Xi Jinping aujourd'hui, globalement, est populaire. Il est populaire à cause de cette, ou grâce à cette campagne anticorruption, il est populaire grâce à ce qu'il dit aux cadres pour essayer de les ramener à la réalité de leur fonction réelle. Et aujourd'hui, il y a un véritable élan dans ce sens-là, alors évidemment avec des dérives, des échecs, etc., mais il y a tout de même cette volonté de ne plus seulement s'appuyer sur ces valeurs marxistes-léninistes, même si le régime est au fond assez léniniste dans ce sens-là, sur le plan hiérarchique, mais en tout cas d'introduire la dimension valeur confucéenne au sens très large, puisqu'il y a plusieurs philosophies autour des valeurs confucéennes. Autre élément donc qu'il a pris à bras le corps, on peut dire, c'est cette lutte anti-terroriste et anti-séparatiste. Donc en Chine, on appelle ça du séparatisme, c'est-à-dire les indépendantistes. Donc il y a les indépendantistes tibétains et les indépendantistes ouïghours, donc de la province du Xinjiang. Ce qu'il faut noter, c'est que sur ce plan-là, le discours, je dirais, et l'action du gouvernement aujourd'hui, du président Xi Jinping, est d'une grande fermeté. Vous le voyez dans la presse, puisqu'on parle beaucoup en ce moment du Xinjiang et de ce qui se passe avec les musulmans à l'ouest. On le voit dans la question du Tibet, mais demain, vous aurez un spécialiste qui va vous parler en détail de la question tibétaine, donc je ne vais pas y revenir. Et aujourd'hui, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur 2011, aujourd'hui, c'est devenu un véritable sujet de préoccupation majeure à cause de ce qui se passe en Syrie et en Irak et à cause du fait qu'il y a ce reflux de ceux qui étaient chez Daesh ou Al-Qaïda et qui sont en train de se rapprocher de la Chine. Donc la lutte antiterroriste, ça veut dire que l'on a passé une nouvelle loi antiterroriste. On envoie aujourd'hui des forces, les Chinois envoient des forces spéciales pour la première fois dans leur histoire depuis 1949, envoient des forces spéciales à l'étranger dans un certain nombre de pays avec lesquels ils ont des accords pour traiter cette question du terrorisme islamiste. Évidemment, c'est notre préoccupation à nous, mais à l'échelle de la Chine, c'est encore plus préoccupant. Sur le plan extérieur, donc dans les orientations de Xi Jinping, d'abord, il y a cette politique très affirmée que j'évoquais tout à l'heure par rapport aux États-Unis et par rapport aux pressions, aux menaces extérieures. Ça, c'est le paysage, si vous voulez, de ce qui est en face de Xi Jinping, pour schématiser, la communauté internationale. Vous avez Shinzo Abe d'un côté au Japon, qui est un ultra-nationaliste révisionniste, puisqu'il il conteste beaucoup de choses sur les crimes de guerre japonais, etc. Vous avez celui du milieu que vous connaissez bien. Comme disent les Chinois, c'est assez difficile de le suivre, parce qu'on est obligé de suivre heure par heure ce qu'il dit. Vous avez Modi en Inde, qui est un ultra-nationaliste hindou, donc qui est soutenu par des partis hindous nationalistes et qui sont violents, qui sont des partis anti-musulmans, etc. Bon, Macron, vous le connaissez. Vous avez Theresa May avec le Brexit qui pose un petit problème quand même dans l'Union européenne, mais qui du coup pose aussi un défi aux Chinois de savoir comment traiter l'Union européenne d'un côté, la Grande-Bretagne de l'autre et le départ du Royaume-Uni de l'Europe. Vous avez Poutine avec ses lunettes qui est un grand allié aujourd'hui évidemment de la Chine puisqu'il y a une convergence d'intérêts évidente sur le plan stratégique qui en plus a fait son coming out en Syrie, c'est-à-dire qui a ramené la Russie sur le terrain des relations internationales de manière extrêmement efficace, on l'a vu en Syrie, et qui donc est un allié avec lequel il faut composer en même temps parce que par exemple son annexion de la Crimée a posé quelques problèmes aux Chinois. Les Chinois n'ont toujours pas reconnu l'annexion de la Crimée parce qu'il y a des questions territoriales, de concepts, de principes qui peuvent leur poser problème. Mais en tout cas, la Chine est un allié et la Chine finance en réalité largement, depuis l'affaire de Crimée, finance largement la survie, je dirais, de Poutine sur le plan économique et notamment des entreprises comme Rosneft, des entreprises pétrolières qui ne pouvaient plus aller emprunter sur les marchés à Londres et qui sont financées en fait par la Chine. Et puis Angela Merkel, que tout le monde aime beaucoup en Chine, parce qu'ils disent au moins elle, quand elle dit quelque chose, elle ne change pas d'avis, ce qui la change d'un certain nombre d'autres que l'on ne citera pas voisins. Bon, elle va disparaître malheureusement pour eux, mais Merkel est vraiment très très populaire en Chine, et elle est très ferme, par exemple sur le Tibet, elle reçoit le Dalai Lama, mais elle dit ce qu'elle fait, et elle fait ce qu'elle dit, ce qui les change beaucoup. Donc ça c'est un peu le paysage auquel Xi Jinping est confronté depuis son arrivée, évidemment c'est un peu complexe. Je vérifie que je suis dans le bon ordre, si j'ai encore un peu de temps, Monsieur Fournier. C'est bon. Je suis dans le bon ordre. Alors, je vous avais montré tout à l'heure la première image avec tous ces bouquins. Maintenant, la Chine, alors là j'ai mis en 2012-2013, j'aurais pas dû. Les défis extérieurs, il y a aussi aujourd'hui cette campagne de diabolisation. Bon, chez nous, quoi que l'on en pense, à mon avis, nous avons aujourd'hui une campagne de diabolisation de deux pays, la Chine et la Russie, pour des raisons d'ailleurs différentes, avec des systèmes différents. Mais il est clair qu'aujourd'hui, si vous prenez les médias américains et encore plus les médias européens, encore plus que les Américains, il y a une véritable diabolisation. Bon, vous avez certainement vu en tout cas je sais que certains ont vu, m'ont dit tout à l'heure, le documentaire sur Xi Jinping, le monde de Xi Jinping. Il y en a eu d'autres avant, on doit en être au 5e, au 6e. Celui-là, je ne l'ai pas vu, mais les autres, je les ai vus. Et c'est vrai qu'on est dans un portrait qui est assez impressionnant du personnage. Le Figaro a fait, il y a 2 mois, peut-être, ou 3 mois, a fait un grand papier sur les dictateurs du monde. Donc, ils ont mis Kim, le Nord-Coréen, Xi Jinping, l'ex-président du Zimbabwe. C'est un peu comparé, ce qui n'est pas tout à fait comparable. Comparer Xi Jinping à Kim, c'est assez audacieux par rapport au système, si vous voulez. Vous savez, la Corée du Nord, aujourd'hui, les Chinois y vont en tourisme, les jeunes Chinois y vont parce qu'ils disent c'est comme la révolution culturelle. Mes parents m'en ont parlé, mais je n'ai pas vécu, donc je vais voir comment c'était en Corée du Nord. Donc en Chine, objectivement, pour ceux qui connaissent la Chine, on n'est pas aujourd'hui en Corée du Nord, c'est évident. Même si le système est ce qu'il est, il y a un certain nombre de limites, c'est évident, mais nous ne sommes pas en Corée du Nord. Et là, vous voyez, j'avais relevé cette... elle est ancienne, elle date de 2009, mais elle est très symptomatique, c'est qu'écrivait le Figaro. Pour la première fois depuis des siècles, Pékin a envoyé des navires de guerre loin de ses côtes. Seul problème, c'est que la Chine n'a jamais envoyé de navires de guerre loin de ses côtes. Ils ont envoyé au XIVe siècle des navires marchands, donc la fameuse flotte de l'amiral Cheng He, mais ils n'ont jamais envoyé de navires de guerre. Mais c'est intéressant d'ajouter de guerre, et là, c'est en fait, ils les envoient pour la piraterie, participer à l'opération de piraterie, contre la piraterie, pardon, en Somalie. Donc, nous sommes toujours dans des mots, dans des expressions de ce type qui entretiennent cette idée de la menace chinoise en permanence. Il y avait un article il n'y a pas longtemps, je ne sais plus si c'était dans Libération, je crois, sur les smartphones. Le titre, c'était « Les Chinois espionnent votre smartphone ». Vous lisez l'article et vous découvrez que les premiers à vous espionner, c'est les Israéliens, les deuxièmes, c'est les Américains, les troisièmes, c'est les Russes, et les quatrièmes, c'est les Chinois. Mais le titre, c'est sur les Chinois. Et tout l'article est comme ça. Et ça, notez-le si vous lisez les dépêches, etc. C'est tout, il y a toujours une mise en avant dans les titres de la menace chinoise. Et puis quand vous lisez l'article, vous vous rendez compte que ce n'est pas tout à fait ce que raconte le journaliste. Donc là, vous voyez, quand la Chine veut vaincre, le vampire du milieu, etc. Donc le livre que j'ai mis en haut à droite, c'est un livre chinois qui dit « Attendez, mais en réalité, qui menace qui dans l'affaire ?» Nous n'avons pas de troupes à l'étranger, même si on a maintenant une base navale à Djibouti depuis l'année dernière. Mais globalement, nous n'occupons pas d'autres pays, d'autres États, entendons-nous. Nous n'avons pas de force militaire à l'étranger. On n'a pas 350 000 hommes à travers la planète dans des bases. Donc pourquoi est-ce que nous sommes une menace pour tout le monde? Ça, aujourd'hui, c'est un vrai débat en Chine. Et évidemment, ça crée, et c'est là, à mon avis, le danger, c'est que ça crée une réaction ultra-nationaliste dans un certain nombre de camps, disons, de classes, même chez des universitaires, etc. Parce qu'ils disent trop, c'est trop. La campagne qui a eu lieu en 2008 pendant les Jeux Olympiques contre la Chine, c'était impressionnant. Il est sorti 27 livres en français en 2008. Il y en a un qui défendait la Chine. Il y en avait 27 qui étaient des livres anti-chinois. C'était le moment des Jeux Olympiques. Donc même ceux qui en Chine, et j'ai des amis qui sont très anti-partis en Chine, surtout chez des universitaires, mais qui m'ont dit à l'époque, ils nous ont dit, mais en 2008, mais la Chine qu'on lit dans la presse internationale, c'est pas la nôtre, c'est pas notre pays. Et pourtant, eux sont très anti-partis communistes. Donc je crois que le danger de ces campagnes de diabolisation, c'est effectivement petit à petit de remonter la population chinoise qui dit aujourd'hui, après tout, pourquoi est-ce qu'on nous en veut? Pourquoi est-ce que l'on nous diabolise comme ça? Est-ce que c'est parce qu'on est en train de devenir une grande puissance? Mais pourquoi nous, on n'y aurait pas droit? Pourquoi les Occidentaux y ont droit et pas nous? Et ça, il faut vraiment y réfléchir quand on... Pourquoi je suis encore sur les valeurs confucéennes? Voilà. Donc ça, c'est un élément important parce que c'est aussi ça qui fausse les relations entre la Chine d'un côté et puis les Européens ou les Américains. Autre élément phare de la politique de Xi Jinping, c'est cette initiative, ça s'appelle Ceinture et Route, ça a changé de nom plusieurs fois. C'est pas très, très heureux comme formule, mais il n'y en a pas d'autres pour le moment. Donc les anciennes routes de la soie, c'est une initiative majeure. L'idée de fond, pour schématiser, l'idée de fond étant que la construction à travers l'ensemble du continent eurasiatique et africain d'infrastructures permet effectivement le développement de l'ensemble du continent, c'est-à-dire amener le chemin de fer, les oléoducs, les gazoducs, les aéroports, etc., dans l'ensemble des pays concernés, donc des pays en voie de développement, mais même en Europe, ça permet effectivement de faciliter le commerce international, qui est, semble-t-il, une des règles du libéralisme. Et donc les Chinois sont aujourd'hui plus libéraux que manifestement les Américains, puisqu'ils disent effectivement le développement de la planète dans son ensemble repose sur les échanges commerciaux et les échanges entre les pays. Donc, ils ont lancé cette initiative à coût de centaines de milliards de dollars. Ils ont créé, vous l'avez peut-être vu, une banque d'infrastructures, création d'une banque asiatique d'infrastructures qui investit dans des projets donc de développement des infrastructures. Aujourd'hui, vous savez, des trains qui viennent donc de Chine. Il y en a un nombre croissant, c'est exponentiel. Ils vont jusqu'en Espagne, ils vont en Belgique, etc., un peu partout. Et jusqu'à présent, tout à fait au début, ces trains ne transportaient que des marchandises chinoises vers l'Europe, évidemment, les exportations. Et aujourd'hui, donc, ils repartaient à vide. Aujourd'hui, on estime que à peu près la moitié, 50% aujourd'hui, sont remplis cette fois de produits européens qui sont exportés vers la Chine. Donc il y a un intérêt évident. Et lorsque, alors là, il n'y a pas l'Afrique, parce qu'il y a d'autres pays qui viennent de rentrer, comme la Tunisie, etc., dans l'initiative. Mais ce qui est intéressant dans cette initiative, c'est que le continent eurasiatique et l'Afrique réunis par des intérêts communs économiques stratégiques, c'est le cauchemar des États-Unis. Si, pour ceux qui ont lu Le Grand Échiquier de Brzezinski, il écrit en toutes lettres, il dit le cauchemar stratégique des États-Unis, c'est le continent, la fédération du continent eurasiatique et le fait que les États-Unis ne seraient plus qu'une île au large du continent eurasiatique. Bon, je suppose qu'ils ont lu, les Chinois, Brzezinski, et ils ont trouvé que l'idée était bonne. Donc, du coup, il y a cette initiative qui est initiative. L'avantage aujourd'hui des Chinois, et il faut espérer pour tout le monde que ça durera, c'est qu'ils ont les fonds, ils ont les financements aujourd'hui pour, je dirais, pour réaliser leurs ambitions. Évidemment, il y a des hauts et des bas. Bon, on a vu, il y a des problèmes à Sri Lanka. Le problème, et ça c'est aussi quelque chose que l'on perçoit mal, c'est qu'il y a les décisions centrales, il y a les décisions que peut prendre le parti au niveau central, qui ensuite sont transmises dans les canaux politiques, mais aussi aux entreprises d'État, les grandes entreprises d'État. Mais ensuite, la réalité sur le terrain, pour que les responsables des entreprises d'État qui sont en Afrique, qui sont en Amérique latine, appliquent les instructions, il y a un certain décalage. Eux étant d'abord concernés par le profit de l'entreprise, leur profit propre. Et donc, il y a des dérives. On a vu au Sri Lanka, il y a eu des manifestations, on a vu au Laos, etc., parce que les entreprises d'État ne se comportent pas toujours bien. Mais ça, je dirais, c'est quand même très difficile à Pékin de contrôler sur le terrain ce que font les entreprises d'État. Et donc, en même temps, on a conscience de cette problématique. Donc l'année dernière, à l'été 2018, il a été créé là aussi une commission de contrôle des entreprises d'État qui est censée faire l'inspection à l'étranger du comportement de ces entreprises qui sont des méga-entreprises. Aujourd'hui, vous savez, 70% des infrastructures qui se construisent aujourd'hui en Afrique sont construites par les Chinois, c'est-à-dire financement chinois et entreprises chinoises. Alors on peut dire c'est leur intérêt, oui sans doute, mais nous à une époque où c'était notre intérêt, on n'a pas fait les infrastructures. Donc je veux dire, il faut aussi avoir une idée de ce que représente pour les pays en voie de développement, en Afrique en particulier, ce que représentent ces infrastructures, le chemin de fer, les routes, etc. C'est tout de même pour ça que la Chine est assez populaire dans les pays en voie de développement, encore aujourd'hui, même si là encore il y a des hauts et des bas. C'est un des grands engagements de la Chine, le soutien aux pays en voie de développement sous diverses formes. C'est l'aide au développement, c'est l'aide gratuite. Il y a les investissements qui sont donc comptabilisés sur un certain nombre d'années, etc. Le président Xi Jinping, le dernier sommet Chine-Afrique, s'est engagé sur 60 milliards de dollars pour les pays africains, pour l'ensemble de l'Afrique. Et ça, c'est un mouvement continu d'investissement de la Chine en Afrique. Et on voit se transformer dans un certain nombre de pays, on voit effectivement se transformer aider un certain nombre de pays en matière de capacité de réseau, de communication, de transport, etc. Et il est évident que ce sont les infrastructures qui apportent le développement. Quand vous êtes isolé dans le désert ou au fin fond de la forêt et que vous n'avez aucun accès au cœur économique d'un pays, il est évident que c'est quand même beaucoup plus compliqué que si vous avez un chemin de fer ou une route. Donc c'est le modèle chinois, c'est-à-dire c'est l'expérience du développement de la Chine. La Chine s'est développée et a développé les provinces intérieures et les provinces de l'Ouest à travers les infrastructures. Il faut se rappeler tout de même qu'en 40 ans, on a construit 50 000 km de voies ferrées en Chine. Donc je ne sais pas trop qui est capable aujourd'hui de faire ça ailleurs. 50 000 km sans compter les autoroutes et les routes. En 1978, il existait une autoroute. C'était le tronçon de l'aéroport de Pékin jusqu'à la capitale. Une autoroute. Aujourd'hui, vous pouvez faire le pays entier jusqu'à l'ouest, jusqu'au Kazakhstan par des autoroutes. Donc pour leur expérience, pour eux, doit servir dans ce sens-là aux pays en voie de développement. Ils ont les moyens. Naturellement, il y a une contrepartie, parce que c'est dans la presse régulièrement en ce moment, c'est la dette que ça crée pour les États africains. Mais en même temps, les Chinois disent ça crée une dette, mais si cette dette est compensée par le fait qu'on génère de l'activité économique, logiquement, les États concernés doivent, après, parce qu'en général, les prêts sont sur entre 20 et 30 ans, d'ici 20 ou 30 ans, doivent être capables, effectivement, de rembourser une dette simplement par l'activité économique qui aura été générée. On le voit dans un certain nombre de pays, par exemple c'est le cas au Ghana. Aujourd'hui, l'ensemble de l'industrie textile au Ghana qui exporte, elle exporte grâce à des financements chinois qui n'existaient pas avant. Donc c'est une logique économique. Évidemment, nous sommes de notre côté, pas moi, mais avec, je dirais, un flash en disant mais les Chinois sont néocolonialisme chinois en Afrique, ils créent une dette, etc. Bon, nous avons créé des dettes, comme vous le savez mieux que moi, pendant quelques décennies, mais nous, on n'a pas apporté grand-chose en termes de résultats économiques, si ce n'est de la dette sans cesse reconduite avec le FMI, la Banque mondiale, etc. On a coulé, vous vous souvenez, l'Argentine, on a coulé des États entiers sur le plan financier. Donc, évidemment, c'est un pari du côté chinois en disant mais ces pays doivent se développer d'ici 20, 30, 40 ans. Ils doivent être capables de rembourser leurs dettes. Évidemment, ça dépend tout de même quand même un peu aussi des dirigeants africains parce qu'on construit les infrastructures, mais si les dirigeants africains ne font rien pour les utiliser, ça ne peut pas mener très loin. Alors, oui. La Chine et les États-Unis de Trump, puisque là nous sommes en pleine actualité, donc vous avez la double face de Trump d'un côté, le méchant, d'un autre côté, le souriant, en permanence. Donc les Chinois ne savent jamais quel visage ils vont rencontrer quand ils sont avec lui. C'est aujourd'hui très compliqué en réalité parce que les États-Unis, parce que ça ne date pas de Trump, les revendications sur les questions commerciales étaient antérieures à Trump. C'était déjà le cas avec Obama, c'était déjà le cas avec Bush, etc. Mais en réalité, à mon sens aujourd'hui, la problématique elle est moins commerciale. Enfin, de toute façon, le déficit commercial pour les États-Unis, il va se poursuivre. Quoi que fasse Trump, il se poursuivra parce qu'il arrivera un moment où malgré les taxes, etc., de toute façon, l'économie américaine va étouffer elle-même, ce que disent en tout cas les économistes américains. Donc ça ne va pas changer grand-chose au problème. La question aujourd'hui, elle est d'abord technologique et stratégique. C'est-à-dire, et on le voit avec la prise d'otage de la responsable de Huawei au Canada, parce que c'est réellement une prise d'otage. Aujourd'hui, ce qui pose problème aux États-Unis, c'est le développement technologique et scientifique de la Chine, c'est-à-dire la certitude qu'ils ont à Washington que d'ici 20 à 25 ans, les Chinois passeront devant en matière de développement des hautes technologies. C'est le cas de Huawei depuis plusieurs années. Huawei est la première société à déposer des brevets à l'OMPI chaque année. Et il y a deux ans, je n'ai pas vérifié l'année dernière, il y a deux ans, ils en ont déposé 1500 brevets. Donc évidemment, il y en a sans doute qui ne servent pas grand chose, mais quoi qu'il en soit, la recherche et le développement aujourd'hui en Chine, c'est une haute priorité. Et pour les Américains, ça, c'est un problème majeur. C'est un problème majeur parce que ça concerne naturellement le civil, mais ça concerne aussi le militaire. Bon, vous avez vu que les Chinois sont allés sur la face cachée de la Lune. Et ça, à Washington, on est littéralement paniqué par cet aspect-là. Non pas par aujourd'hui, demain, mais par ce qui va se passer dans 20-25 ans quand cette hégémonie technologique et militaire américaine va petit à petit disparaître. Bon, elle est déjà en train de s'affaiblir, mais elle pourrait disparaître largement. Et l'autre préoccupation majeure, et c'est pour ça qu'on est dans une guerre commerciale, c'est la question du dollar. Parce qu'en réalité, l'hégémonie américaine, elle tient à quoi aujourd'hui ? Elle ne tient que au dollar. Au-delà du soft power des films de Hollywood, la vraie hégémonie, c'est le dollar. On le voit sur les sanctions contre l'Iran, contre la Syrie, etc. Excusez-moi. Depuis mars, voilà, 2018, les Chinois ont lancé, à la bourse de Shanghai, ont lancé le commerce des hydrocarbures en renminbi, c'est-à-dire en monnaie nationale, ce qui est une première. Bon, les Européens avaient essayé, ils ont vite renoncé. Les Chinois ont mis le renminbi en position d'être la monnaie qui, à l'avenir, pourrait être la monnaie de transaction des hydrocarbures. Et vous le savez, sur le plan commercial, tout le reste n'a aucun intérêt en dehors des hydrocarbures. Ce qui compte et ce qui fait la puissance américaine aujourd'hui, c'est le dollar et le pétrole, pour schématiser. Le jour où plus de 50% des transactions sur le pétrole se font dans une autre monnaie que le dollar, je dirais là aussi, le dollar est mort. Parce que le dollar, comme vous le savez, il n'est pas gagé sur des réserves d'or. Il est, je crois, je ne sais plus à combien il est, mais je crois 30%, quelque chose comme ça. On a vu que les crises du Mexique en 86, la crise 97 asiatique, la panique aux États-Unis, ça a été quand les Mexicains puis les Japonais en 97 ont dit « mais nous allons vendre sur le marché nos dollars ». Moi, j'étais en poste ambassade en 97 en Asie, et à ce moment-là, le jour où les Japonais ont dit ça, le secrétaire d'État américain au Trésor a pris l'avion. Le lendemain, il était à Tokyo et il leur a dit « si vous faites ça, nous retirons notre parapluie de défense sur le Japon ». Face à la Corée du Nord, c'est un peu risqué. Donc les Japonais sont revenus en arrière. Mais ça montre à quel point, effectivement, toute l'hégémonie américaine repose sur cette puissance fictive, en réalité, du dollar. Donc les Chinois ont essayé d'internationaliser leur monnaie depuis plusieurs années, 3-4 ans, un peu plus fortement. Mais le problème, c'est que ça crée effectivement, sur le plan de la monnaie elle-même, ça crée une revalorisation. Pardon. Et donc ils ont un peu ralenti le processus parce que ça a un impact sur l'inflation en Chine, etc. Enfin bon, l'ensemble du processus. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, s'ils arrivent à poursuivre, pour le moment, les acheteurs, évidemment, sont très prudents. Beaucoup d'acheteurs achètent depuis des décennies en dollars sur le marché des hydrocarbures et ils ne sont pas prêts à changer d'un jour à l'autre, à passer au renminbi. Mais si le processus se poursuit, et il va se poursuivre, parce que les Chinois ont la suite dans les idées, s'il se poursuit pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, d'ici 15 à 20 ans, la monnaie chinoise pourrait devenir une monnaie majeure de transaction des hydrocarbures, puisqu'ils sont les premiers acheteurs de pétrole aujourd'hui et de gaz. Le résultat, c'est qu'effectivement, là aussi, le dollar serait marginalisé et les États-Unis auraient un grand problème économique. Donc c'est ça, en réalité, qui est en jeu. Ça n'est pas cette question du tarif sur l'aluminium ou le prix des automobiles, etc. La question, c'est le dollar et la technologie. Et les Chinois le savent très bien. C'est pour ça que ce plan technologique, ils continuent, ils accélèrent le processus de recherche et de captation des technologies. C'est-à-dire, même s'il faut aller les chercher à l'étranger, vous savez qu'en Europe, ils achètent massivement des entreprises, surtout des entreprises technologiques. Ils en ont acheté pas mal aux États-Unis aussi, même s'il y a des limites posées par le Congrès américain. Et donc, là, aujourd'hui, nous sommes dans une course entre les deux qui va bien au-delà du personnage de Trump et qui est une course réellement pour l'hégémonie future des États-Unis. Parce que la Chine dit de son côté, mais nous n'avons pas d'ambition hégémonique, on n'en a jamais eu avant, on n'en a pas davantage aujourd'hui. Par contre, ce que l'on veut, c'est que l'on nous respecte en tant que grande puissance et que l'on ne vienne plus nous expliquer ce qu'il faut faire chez nous. Ça se défend. Maintenant, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que sur le long terme, ils sont capables de s'en tenir là ou pas ? Ça, c'est un autre débat. Je veux dire, qu'est-ce que sera la Chine dans 30 ans ? Je ne prendrai pas le risque d'essayer de l'expliquer aujourd'hui. Mais il est clair qu'en tout cas, ça n'est pas dans l'histoire de la Chine. Cette forme d'hégémonie générale, ça n'est pas dans l'histoire de la Chine. Tiens. Décidément, je ne suis pas très doué avec cette... voilà, j'en étais là. Décidément. Ceinture et haute soutien. Bon, l'attaque frontale des États-Unis, c'était avec Trump. Donc, pour terminer, si vous avez des questions, je crois que le problème central qui se pose aujourd'hui à nous, c'est-à-dire à nous en Europe, la première chose, c'est de savoir si nous allons continuer à suivre les États-Unis comme des sortes de tirailleurs sur des questions internationales comme celle de la relation avec la Russie ou avec la Chine. Je pense que c'est un pari risqué de continuer à suivre les États-Unis, parce qu'en réalité, on le voit avec Trump, nous avons des responsables européens qui disent « oui, mais il n'est pas sérieux, il est ci, il est ça », mais je dois dire quand même qu'à chaque fois qu'il prend une décision, en général, on lui emboîte le pas. Sur l'Iran, nous sommes en train de faire... L'Iran est important parce que c'est un partenaire très important de la Chine et des entreprises chinoises. Nous sommes en train de faire diversion avec le système SPV, etc., qui doit permettre à des entreprises européennes de continuer à commercer avec l'Iran. Mais c'est une farce, parce qu'en réalité, ça ne concerne que des PME. Tous les grands groupes européens sont déjà partis d'Iran. Et du côté chinois, toutes les sociétés chinoises ont arrêté leurs activités en Iran, parce qu'elles ne peuvent pas transférer leurs fonds à l'étranger, puisqu'elles sont obligées de passer par le système international, et donc par le dollar. Donc, là, nous sommes, pour moi en tout cas, nous sommes dans l'enfumage. C'est-à-dire les responsables politiques européens savent qu'en même temps, ça n'est pas très populaire, ces sanctions contre l'Iran sur le plan économique pour les entreprises, etc. Et donc, il y a un peu d'enfumage en disant « mais on a trouvé un système, etc. » Les Iraniens y croient de manière très, très raisonnée. Et en réalité, les entreprises, de toute façon, qui sont concernées dans l'ensemble, ce ne sont que, encore une fois, des PME. Ce ne sont pas les grands investisseurs aujourd'hui en Iran. Donc, sur des dossiers comme cela, nous sommes prisonniers de la politique américaine par rapport face à la Chine, prisonniers à cause, encore une fois, du système monétaire international et du système financier international. Si nous continuons à penser qu'il y a un camp aujourd'hui sur la planète, et que ce camp, c'est le camp des États-Unis contre le camp des méchants, c'est-à-dire les bons d'un côté européen et américain et les méchants russes et chinois, je pense que l'on va à la catastrophe sur le moyen et le long terme. C'est pour ça d'ailleurs que l'on pousse, vous avez vu, tous les bouquins parlent de guerre avec la Chine, on en parle à Washington depuis longtemps, on en parle depuis la fin de la guerre en Irak, ou plus ou moins fin de la guerre en Irak, on parle de la guerre avec la Chine. Les Chinois sont convaincus dans beaucoup de milieux en Chine que les États-Unis effectivement veulent, à terme de 20 ans, ils disent 20 ans, une guerre avec la Chine, ce qui serait probablement pas très raisonnable, en tout cas ça n'arrangerait pas beaucoup la situation, et ça ne permettrait pas aux États-Unis de maintenir leur hégémonie mondiale, même s'il y a un décalage militaire entre la Chine et les États-Unis. Donc aujourd'hui, c'est une vraie question qui se pose à nous, c'est de savoir, est-ce que nous sommes censés continuer à croire tout ce que l'on nous dit sur la Chine, tout ce que l'on dit à l'extérieur sur la Chine, et aussi les hommes politiques, etc., en disant c'est la première menace pour notre système démocratique, notre économie, etc. Oui, il y a des problèmes, c'est évident qu'il y a des problèmes dans nos relations avec la Chine, notamment sur le plan économique, on le voit avec l'Union européenne, les problèmes se discutent. Et quand on négocie avec la Chine, il faut aussi savoir être ferme. Ça, c'est un autre problème. Il faut savoir défendre nos positions quand elles sont, je dirais, explicables et raisonnables. Mais en même temps, les campagnes de diabolisation médiatique, les discours de certains dirigeants politiques français et autres sur la Chine, en tout cas, ne facilitent pas le dialogue avec ce qui, de toute façon, est la future grande puissance mondiale aux côtés des États-Unis, certainement. Mais c'est la future grande puissance mondiale. Donc quel est l'intérêt pour nous de continuer à diaboliser sur le thème les droits de l'homme, etc. Mais les droits de l'homme, ça se discute. Je veux dire, il y a d'ailleurs des échanges sur ces thèmes-là. Il y a des problèmes en Chine, il y en a un certain nombre ailleurs aussi. Je trouve qu'en Arabie Saoudite, on n'est pas très regardant quand même sur les droits de l'homme par rapport à tout ce qu'on dit sur la Chine. Et donc voilà, ce sont des discussions et des débats que l'on peut avoir et avec les Chinois à condition que l'on respecte
l'autre, c'est-à-dire à condition que l'on ne vienne pas lui donner des leçons. Et ça, c'est une des choses que les Chinois, c'est le cas de Xi Jinping, mais c'est le cas de beaucoup de Chinois aujourd'hui, n'acceptent plus, c'est qu'on vienne leur donner des leçons et leur expliquer comment on dirige leur pays. C'est ce qu'ils disent, quand vous avez 60 millions d'habitants, ne venez pas nous expliquer à nous comment on gère 1 milliard 500 millions d'habitants. Et objectivement, je pense qu'ils ont raison sur ce plan-là, parce que c'est effectivement, ça n'est pas le même problème pour un président français de se lever tous les jours ou un président chinois. Je pense que les préoccupations sont sensiblement différentes. Donc ça, c'est important parce que ça ne signifie pas que tout va bien en Chine, ça ne signifie pas que tout est rose, ça ne signifie pas, à la limite, que nous n'aurons pas à l'avenir des problèmes stratégiques, peut-être avec la Chine, mais aujourd'hui ça n'est pas le cas, donc essayons de ne pas en rajouter et regardons plutôt de temps en temps la Chine avec un œil, avec un angle de vision un peu plus chinois, je dirais, c'est-à-dire essayer de comprendre pourquoi l'on raisonne comme ça en Chine et non pas simplement à partir de nos critères à nous, droits de l'hommiste quand ça nous arrange. Et puis par moments, on oublie complètement à la fois les droits de l'homme, les menaces économiques, etc. Quand il est question d'autres pays, il faut se souvenir, on ne l'écrit pas dans les journaux, mais qu'en France, le premier adversaire économique des services français, des services de renseignement français, ce sont les États-Unis, ce n'est pas la Chine. Leur préoccupation quotidienne, c'est les États-Unis, c'est l'espionnage économique américain. Le système échelon qui est en Grande-Bretagne, on dit aujourd'hui qu'il cause la perte de plus de 1 milliard de dollars par an aux entreprises européennes simplement par l'espionnage des communications. Bon, ce sont quand même les Américains qui espionnent les communications de Mme Merkel ou des Français. Donc tout ça, encore une fois, il y a tellement d'enfumage et de diabolisation médiatique autour que l'on finit par perdre le sens des réalités. La réalité, c'est que la Chine, elle est là. La Chine, c'est définitivement une grande puissance. Il faut discuter avec elle, il faut négocier, mais il faut la respecter. Ils doivent nous respecter et il faut la respecter aussi.
Voilà, je vous remercie.
Bon, je n'ai pas crié, donc vous avez continué et on vous écoutera jusqu'à la fin de la nuit. Je pense que ce n'est pas très raisonnable. Donc merci encore de votre exposé. On a le droit de poser des questions. Voilà.
Ou des hurlements. Oui. J'ai pas entendu, je suis désolé.
Vous avez éradiqué leur agriculture.
Ah, oui.
Est-ce qu'ils sont autosuffisants ou ils sont obligés d'acheter à l'extérieur ?
Non, ils ne sont pas autosuffisants aujourd'hui. Il y a un plan de développement de l'agriculture qui est fixé à terme de 2025 pour justement renvoyer d'abord des populations périurbaines vers les campagnes, parce que vous savez, un des grands problèmes des campagnes, de l'agriculture, ça a été la mobilisation des terres pour des projets immobiliers souvent insensés. Il y a eu énormément, un grand pourcentage de terres arables qui ont été prises par les périphéries, disons, des grands centres urbains. Donc il y a un programme justement de transfert d'un certain nombre de populations à nouveau vers les campagnes, donc en leur donnant en même temps des conditions suffisantes pour vivre dans de bonnes conditions à la campagne et pour remettre en culture des terres qui avaient été abandonnées à cause de ce que j'évoquais sur les migrants, les 290 millions de Mingong qui sont partis en ville et qui ont laissé souvent derrière des terres derrière eux. C'est une préoccupation majeure, parce que vous le savez d'ailleurs, d'abord la Chine n'est pas autosuffisante, deuxièmement c'est pour ça qu'elle achète des terres à l'extérieur, elle n'est pas la seule, parce que là aussi j'ai lu des articles qui disent ça y est, ils sont en train de piller l'Afrique, le premier acheteur de terres en Afrique ce sont les Émirats Arabes Unis, c'est pas la Chine, mais ça on le dit pas en général parce que ça rend pas service. Donc les Chinois de leur côté aussi effectivement achètent des terres parce qu'ensuite ils produisent et ils réexportent vers la Chine, mais en tout cas il y a un plan dans le cadre de ces 2021-2049, il y a un plan de redéveloppement de l'agriculture, effectivement, parce qu'il y a un manque cruel, disons, de production agricole, une insuffisance.
Est-ce que je vais vous raconter une histoire chez les
Manos ? Ah
oui ? Ils ont eu la trouille de leur vie, ils ont acheté les laiteries de Normandie.
Oui, absolument.
Une carence,
personne ne s'est aperçu.
Par la machine.
Oui, parce que vous savez, un des problèmes, et ça c'est un des problèmes justement qui est traité en ce moment par les autorités sanitaires, c'est le problème de la qualité alimentaire, des produits alimentaires en Chine. Aujourd'hui en Chine, c'est le cas pour le lait, mais c'est le cas pour pas mal d'autres produits, les Chinois vont acheter plus cher ce qui est produit, ce qui est importé de l'étranger, plutôt que ce qui est produit en Chine, parce qu'ils n'ont pas confiance dans beaucoup de produits qui sont fabriqués en Chine. Et c'est le cas en particulier du lait, mais pas seulement. Donc le résultat, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, c'est un bon investissement pour des sociétés chinoises d'acheter à l'étranger, de réexporter entièrement vers la Chine. Mais Danone avait eu d'autres déboires avant cette question-là. Il y a eu de gros déboires avec leurs partenaires il y a quelques années.
L'écologie.
Chose aussi qui est passée à côté des médias en 2018, quand il y a eu les amendements constitutionnels, il y a un amendement qui a parlé de civilisation écologique, qui a mis dans la constitution chinoise que l'une des 5 premières priorités de la Chine, c'était de devenir ce qu'ils appellent en chinois une civilisation écologique. Donc aujourd'hui, il y a des efforts. On était à Pékin, nous, la semaine dernière. C'est la première fois depuis très longtemps que je vois le ciel bleu, à Pékin comme à Shanghai d'ailleurs. Le ciel bleu, c'est vrai qu'il y avait du vent. Mais ces dernières années, à chaque fois que je suis allé en Chine, et très régulièrement, le ciel était plutôt orange à Pékin et le plafond très bas. Donc il y a des efforts qui sont faits importants, mais là aussi on est dans un processus, c'est-à-dire une transition. Il y a un industriel français qui me disait il y a quelques années, qui disait c'est fou parce que je viens de construire une usine en province, donc les Chinois m'ont imposé des normes extrêmement strictes sur le plan environnemental pour cette usine, et à 2 km il y a une usine qui pollue allègrement depuis certainement des décennies, qui doit remonter aux années 50. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que vous ne pouvez pas immédiatement arrêter des entreprises qui fonctionnent simplement pour créer à la place, bâtir des entreprises qui sont respectueuses de l'environnement. C'est un processus. Donc un jour, effectivement, au fur et à mesure, c'est ce qui s'est passé pour le charbon, au fur et à mesure, les entreprises qui sont vraiment polluantes sont fermées et elles sont remplacées par d'autres. Mais on ne fait pas ça, encore une fois, on ne fait pas ça en un jour, ni même en un an, ni même en 5 ans. C'est un processus. Mais on le voit avec l'automobile aussi, par exemple aujourd'hui, acheter une automobile à Pékin, c'est devenu très compliqué. Il faut des autorisations, il faut attendre des mois pour avoir l'autorisation, etc. Parce que ce qui pollue aujourd'hui dans les grandes villes, c'est le chauffage au charbon, essentiellement, et puis l'automobile. Donc l'automobile, là, bon, c'était peut-être les fêtes, peut-être les gens étaient partis, mais on a constaté qu'à Pékin, c'était nettement plus fluide que d'habitude. Parce qu'ils ont aussi fait un système, vous savez, avec les plaques paires et impaires pour circuler dans la ville. Donc il y a un effort qui est fait, mais là encore, c'est un processus, c'est-à-dire que pendant 40 ans, je dirais pendant 35 ans de réformes économiques, l'environnement, évidemment, ça n'a pas été une priorité. Mais est-ce que ça a été notre priorité au 19e siècle et pendant les premières années du décennie du 20e siècle? La priorité, c'était de faire manger tout le monde et de donner à tout le monde un niveau acceptable, je dirais, de revenus. Après, on peut se préoccuper des questions environnementales. Sur le plan de l'énergie, par exemple, la Chine est devenue, je pense l'année dernière ou il y a 2 ans, le premier parc éolien au monde. Et moi, j'ai vu des surfaces éoliennes ahurissantes. Donc ils essayent de convertir, mais encore une fois, on ne peut pas tout changer d'un jour à l'autre. Mais l'environnement, c'est une préoccupation, évidemment, quotidienne, parce que sur le plan des mouvements sociaux, ça a un impact très fort. Les gens continuent à marcher avec des masques. Enfin, c'est...
La dernière. Bon, eh bien, on va... Ah.
Ils avaient quand même des moyens assez limités. Oui, et puis vous savez, il y a 2 ans, ils ont fait des exercices militaires conjoints et il y a 2 navires qui ont coulé quand même. Non, c'est vrai, dans le golfe du Bohai. Donc je veux dire, évidemment, on n'en est pas aux capacités militaires américaines, on est même très loin. Les Russes sont mieux placés parce qu'ils ont eu l'héritage de l'Union soviétique. Mais du côté chinois, on est encore loin. Dans certaines technologies militaires, ils sont plus avancés que les Américains, hein, dans quelques technologies. Mais pour le reste, on est encore très très loin de la puissance américaine. Mais en même temps, c'est vrai qu'encore une fois, quand vous regardez la carte, personnellement, je serais chinois, je me préoccuperais effectivement de ma périphérie. Un peu comme les Iraniens, si vous voulez. Moi, je serais iranien, j'aurais déjà l'arme nucléaire pour me protéger entre le Pakistan d'un côté, Israël de l'autre. Voilà, c'est des raisonnements nationaux. Et la Chine, ce plan militaire, elle a encore beaucoup de progrès à faire.
Bien, on va remercier très chaleureusement Lionel Véron.
Merci.
Et comme j'ai dit à Ahmed Djebbar, à l'année prochaine, bien évidemment. Hein.
Merci.
Donc le pèlerinage à Chalon, voilà.
Merci.